Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vous aimez les studios?
Ah ouais.
C'est un endroit où on se sent bien, studio?
Ça dépend lesquels, mais... Bah ouais.
Mais il y en a, t'as envie d'y dormir, quoi. Oui. T'en as plein. T'en as un pas loin d'ici, là, je suis passé le... Tu sais, tu vois le studio Saint-Germain, rue de Seine?
Oui.
Incroyable. J'adore la vibe. Là-bas, j'ai dormi, là-bas.
Une fois, mais t'as dormi parce que tu travaillais ou...
Ouais,
parce que,
je travaillais plusieurs jours.
Tu as bien aidé, c'est sympa.
Juste aller dormir.
Tu fais des pauses et tout, moi j'aimais bien.
Et d'autres musiciens, ils attendent, font bien aider encore.
C'est quoi, ça évoque quoi le studio? Parce que je dis aux gens, on est dans un studio à l'arrière-boutique à Paris. Mmh. Studio de musique, d'enregistrement et tout. On est dans le frais du troisième sous-sol.
Bah, studio, je sais pas. Moi, studio, c'est rêve d'enfant. Parce que je me souviens très bien la première fois où j'ai mis les pieds dans un studio. Et franchement, j'en ai pas dormi après, quoi. C'était incroyable. Parce qu'il y avait cet endroit où t'arrivais avec une chanson. Et quand tu repartais, elle était sur un disque, elle était gravée. C'était incroyable. Donc non, moi, c'est ça.
Et t'avais quel âge?
J'avais, la toute première fois, j'avais 16 ans. C'était un peu chez un pote comme ça. Donc c'était déjà dingue, tu vois. C'était plus modeste qu'ici, mais c'était incroyable. Et la première vraie fois, j'avais 23 ans. Et c'était fou, vraiment, je m'en souviens. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré ma femme. Premier jour en studio.
Fromage et dessert, dis donc. Ouais, c'est pas,
ça, c'est donc pas... j'ai un attachement au studio, moi. Et je me suis fait mon studio. J'aime bien ce truc-là.
Et quand tu dis dormir dans le studio.
Ouais, moi je dors. Si, j'ai dormi dans les studios. On fait que dormir dans les studios, c'est sacré.
Je sais pas, je demande.
Non, c'est sacré.
Ah, c'est sacré.
Et toi Zazie, ça veut quoi le studio? C'est ce champ des possibles, c'est
la track,
traîne,
un peu.
Le track.
Ouais. Maintenant, je travaille. J'aime bien travailler ailleurs que dans un studio, en fait. On peut maintenant, ça s'est bien démocratisé, faire de la musique assez facilement, avec un tout petit peu de matériel. Donc moi, j'ai une espèce de chambre studio, un studio d'amis, enfin, je ne sais pas comment te dire.
Ouais, ouais.
Mais ça suffit largement, en tout cas, pour faire une chanson. Après, si on veut que le son soit beau, etc., machin, ou faire un piano, on va ailleurs. Mais en fait, moi, j'aime bien ça. J'avais peur. Dans les studios, ça s'est vraiment démocratisé. Mais t'arrivais dans un studio immense, ça coûtait une blinde la journée. Et tu te dis, ouais, non mais là, c'est mes pattes de mouche, les gars. Ça vient d'un côté imposture à y aller, ouais. Je trouvais. Pour travailler, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le studio, c'est le côté labo, la chose. Donc,
avoir du temps.
Ouais, un labo, tu dois payer comme ça autant d'argent. Tu vois, moi, j'ai commencé il y a 30 ans, donc c'était quand même forcément plus cher.
Ah oui,
là, j'aime bien le fait que ça se soit démocratisé.
T'as en tête, putain, ça coûte hyper cher, là. Quand je dis, attendez, donnez-moi 20 minutes, il faut que je réfléchisse.
Ça fait cher, la minute, tu vois. Ouais. T'as l'impression que le temps passe et qu'il faut être productif, alors qu'en fait, c'est bien le côté labo de prendre son temps et de pouvoir dormir dedans.
Ouais, alors qu'il dort.
Sans que ce soit trop cher, quoi.
Ça fait cher la nuit, apparemment, quand tu dors.
C'est l'hôtel le plus cher de la tête.
Et tu vois, j'ai vu une vidéo là récemment de Pharrell Williams et Justin Timberlake il y a des années, quand ils composent ensemble leur première grosse collab, leur premier gros hit. Et il y a quand même un truc magique au studio, c'est que nous tous, on connaît le produit fini, avec le beau clip, où ils sont toujours stylés. Mais il y a le moment du studio où ils bossent sur le truc. Et il y a évidemment une fragilité, il y a une vulnérabilité face à la chanson et face à l'idée. Est-ce que vraiment la piste, elle est bonne? Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Ça, c'est commun à tout le monde, Pharrell ou nous. Il y a quand même un truc que je trouve hyper beau.
Tu vois Pharrell fragile. Tu le vois un peu en train de proposer sa musique et l'autre en train d'écouter. C'est ça qui est
très
touchant.
Alors, il y a un moment, il voit que sa fille, donc il remet les lunettes, il sent bien tout ça.
Mais
globalement, il y a un moment, il a de doute aussi. Donc, je trouve quand même ça magique parce que c'est là où tout commence pour tous les projets du monde. Il y a un moment où on se met quand même face à un écran d'ordi, un truc, à rien. et on essaie de trouver ce qu'on a envie d'exprimer là. Et ça, c'est quand même un truc magique. Finalement, les Mick Jagger et tout ça, il y a un moment dans le studio, ils ont été vulnérables. Et c'est plutôt joli ça.
Ouais, c'est marrant, t'entends un gros hit. Toi, tu le sais que ça va être un gros hit, mais tu le vois dire. Je suis pas sûr, je sais pas.
Mais c'est ça.
Oui, nous, on le sait aujourd'hui.
C'est dans les premiers des charts.
Ouais, ouais. C'est ça. Mais tant mieux, hein, parce que sinon, si tu savais quand tu fais trois, tu vois, ouais, ça va être un tube, c'est sûr.
Par contre, on l'a entendu, ça quand même. Ouais.
Bah, ça arrive, oui, ça nous, tu vois, ça nous arrive même de dire ça, mais ça c'est tellement énorme. C'est en énorme, fait, c'est ça. Pas souvent celle-là qui marche, tu vois. Mais
il y a un côté un peu surprise sur les tubes quand même. Il y a un côté un peu genre ah bon, c'est celle-là. Ah bon.
Tu peux te ça dire quand arriver, même attends. Qu'il y a un truc. Enfin, on bosse les chansons longtemps quand même. Enfin, moi je les bosse assez longtemps en studio. Et si tu t'en lasses pas, c'est quand même assez bon signe. Mmh. C'est-à-dire que tu, non seulement tu t'en lasses pas, mais tu l'entames. Parce que quand tu fais un album, par exemple, tu vas bosser sur telle chanson, puis au bout d'un an, t'en as un peu marre. Tu vas t'attaquer à une autre, ou faire le piano de celle-là, machin. Et puis tu reviens, hein, et là tu fais... Ouais. C'est, de temps en temps, il y en a une qui te fait quand même ça. Un peu souvent, pendant 8 mois, tu te dis, bon, celle-là, au moins déjà, je m'en lasse pas, quoi.
Pour expliquer un peu aux gens, le moment du studio, c'est un peu le moment de la concrétisation de l'album. C'est-à-dire qu'on va faire venir sur, à peu près, hein, dites-moi, mais grossièrement, dans la tradition du studio, c'est là où on va faire venir les pianistes, les bassistes, tous les gens qu'on a prévus pour l'album, le quatuor à cordes, peut-être l'orchestre à ce moment-là. Et donc, c'est une période de 3 semaines, ça peut être de 4 semaines, 5 mois, enfin, ça peut être très très long. Mmh. Je sais que Queen faisait des 6 mois, Metallica ouais. a fait 9 mois dans un studio, tu vois, par exemple, pour faire l'album. Mais aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle home studio, c'est-à-dire qu'à la maison, tu peux faire des trucs, tu peux faire déjà des petites maquettes. Avec un petit clavier MIDI, tu peux déjà faire ta ligne de basse, ta petite maquette, ta petite chose, t'as ton guitare-voix, tu peux trouver un truc. Et après, t'arrives en studio et de développer ça.
Tu peux faire du def dans ton home studio.
Comment ?
Tu peux faire du def dans un home
studio. Ah ouais, carrément, aujourd'hui, on peut faire du def. Ouais.
Bien sûr.
Bah, tu vois, juste avant l'interview, on parlait de ce micro-là. Ce micro, il a révolutionné vraiment le home studio parce que c'est un micro qui se branche directement. Je ne fais pas de la pub, hein, je m'en fous. C'est un micro qui se branche dans l'ordi.
Il y a un lien via Nev 20, 20% sur...
Non, mais c'est vrai que ce truc, c'est fou. C'est-à-dire que d'un coup, il n'y avait plus besoin, même plus de carte son ou quoi, ce truc-là. Il y rentre dans l'ordi et il suffit d'avoir la bonne chanson, le bon ordi quand même. Mais je veux dire, pour 300 balles ou je ne sais plus, un truc comme ça, tu peux faire à peu près un disque. Donc, c'est quand même... C'est devenu autre chose aujourd'hui. C'est ce qui est fascinant. Moi, j'adore qu'on puisse faire les choses à l'arrache. J'aime toujours qu'il existe quand même des grands studios dont tu parlais, où il y a des vieilles consoles qui n'ont pas de prix, ni à l'achat, ni à la location. Mais d'un coup, tu viens chercher autre chose, une vibration. Il y a un studio, tu vois, La Frette.
Des souvenirs, ouais.
La Frette Studio, je parle de celui-là, parce que c'est un grand studio à 1 heure de Paris. Ouais, clairement, ça sent la poussière. Hein. C'est pas, mais la console, c'est la console de Dee Barclay.
Une livre, ouais, c'est une livre.
Tout le monde a enregistré dessus, de Nick Drake. Voilà, je sais plus qui était venu. Mais trop de gens sont venus là. Les Rolling Stones sont venus. Donc, t'es là, tu viens chercher cette vibration. C'est sûr que c'est pas la même qu'avec ça dans ta chambre. Mais ça peut être complémentaire. C'est important si on a le luxe de pouvoir avoir les deux une fois dans sa vie. Il faut un petit peu goûter aux deux parce que c'est des plaisirs un peu différents, mais important pour la création quand même.
Est-ce que c'est pénible parfois ? Pénible dans le sens... Alors, on a le privilège d'être artiste, de faire ce qu'on aime dans la vie et tout, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une peine à sortir les choses, à terminer les choses ?
Genre pénibilité.
Est-ce que finir quelque chose, c'est compliqué pour vous ? C'est ça que je veux dire.
C'est douloureux, hein, parfois.
Ouais ?
Ouais, ça fait mal. Hein.
Je pense qu'il faut accepter un truc. Une chanson, c'est un moment... Et on arrête, il faut savoir arrêter les choses. Sinon, ta chanson, tu l'as fait toute ta vie. Tu es tout le temps sur les mêmes névroses, récurrences, métaphores, enfin, peu importe. Donc, c'est pas mal d'accepter ça. Ça passe par une certaine humilité, en fait, je trouve, les chansons, de pouvoir mettre une deadline, tu vois, et de se dire, tiens, ça y est, là, bon, c'est fini. Dès que tu le réécoutes, dès que c'est figé, tu te dis, ah, mais j'aurais dû faire ça, mais pouvoir arrêter ça et arrêter le côté un peu écoute, machin, être le public, être... Bah non, tu fais les choses et puis il y a d'autres qui vont les écouter et il faut de temps en temps arrêter avec cette distance-là, tu vois, d'être tout le temps le public, ce que tu es en studio. En studio, on est obligé d'être notre propre public. Mmh. Parce que...
En fait, c'est comme s'il y avait... Moi, je trouve toujours qu'il y a un équilibre entre l'exigence, si tu veux, et le lâcher-prise. Et c'est vraiment arriver à se situer là-dedans. Il y a des artistes qui sont surexigeants. Je ne sais pas, un Laurent Voulzy est surexigeant. Et c'est comme ça qu'il a construit, lui, son incroyable carrière. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus lâchés prise. Je pense à Gims, parce que j'ai vraiment vécu ça plusieurs fois. C'est pas que c'est pas exigeant, c'est qu'il lâche prise très vite. Et il y a une beauté à ça. Il y a une beauté du premier jet, de l'instant. Ed Sheeran, ça va très vite. Il faut que ça aille très vite. Et puis, il y en a d'autres, c'est vrai, qui eux, peuvent être carrément maniaques sur le truc. Quand même, pour pas que ça fasse trop mal, il faut un petit peu...
Un peu des deux. Sinon, voilà. Tu peux pas écouter jamais, quoi.
C'est quoi le lâcher prise? C'est quoi ça, le lâcher prise? C'est un truc dont on parle souvent, lâcher prise, perdre le contrôle. Tu vois, parce qu'on est la plupart des humains essaient de garder le contrôle en permanence. On dit des contrôles free, des trucs comme ça. C'est quoi le lâcher prise?
C'est un peu ce que décrivait Jezazi, je trouve. C'est de garder une distance, d'un coup d'avoir une distance saine avec les choses, de dire que là on n'a pas changé la face du monde. Si je refais la batterie, oui, ça va me prendre 2 jours, c'est relou, ou peut-être que j'ai pas besoin de le faire, peut-être que la chanson elle est bien comme ça. C'est de prendre un petit peu de distance avec les événements, le lâcher prise, je crois. Et voilà, et du coup ça rejoint un peu une fatalité, mais un truc heureux. Tu vois, de dire
ouais, c'est ça, je pense que c'est le contrôle, c'est le contraire de la flemme. On pourra associer ça, en tout cas en musique, à une certaine imperfection. Accepter l'imperfection, c'est accepter l'humain, c'est accepter le truc qui est justement intéressant, c'est le relief. Le contrôle de tout, c'est aussi parfois se gommer soi-même derrière.
C'est pas mal, ça. C'est bien, c'est une bonne punch.
De quoi ?
Le contrôle de tout, c'est se gommer soi-même.
Ben oui, parfois.
Ouais, c'est s'effacer.
Derrière cet aspect. Parce que dans la perfection, tu as aussi la comparaison avec ce que le monde te dit de faire ou un format ou une norme. Et en musique, on a cette chance, c'est de pouvoir échapper à ça. Quoi.
Est-ce que créer, c'est une forme de deuil permanent de ce qu'on t'as dans la tête et de finalement de ce que tu as.
Un bout de mot, voilà.
Non, mais c'est un deuil permanent dans le sens, je n'arriverai pas à cette perfection. J'arriverai pas à ça. Les gens qui veulent créer aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de créer des choses parce qu'ils disent non, mais ça sera pas parfait comme je veux, ça sera pas ce que je veux. Il me faut le bon matériel, il me faut la bonne chose, il me faut la bonne personne. Ouais.
Ça, c'est pas des bonnes raisons. Non. Une bonne chanson, on n'a pas besoin de bon matériel. Après, le deuil, moi, je ne le vis pas comme ça parce que c'est comme si ça parlait. On parlait aussi de frustration.
Oui.
Moi, je ne veux juste pas être frustré. Quand la chanson, je considère qu'elle est prête, peut-être que si je la refaisais tout de suite, elle serait forcément différente, en fait. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je ne veux juste pas être frustré de ce qui s'est passé. J'ai donné le meilleur. Je crois que j'ai fait à peu près mon travail. Je suis allé au bout à peu près de ce que je peux faire. Peut-être qu'en y bossant 1 semaine de plus, je peux gagner 5%. Ça vaut pas le coup. Si c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. C'est qu'une chanson.
Zen. Donc, c'est hyper zen comme manière d'être.
Ouais, bah, y a intérêt. Quand tu sors des chansons, encore une fois, voilà, ça peut rendre fou. Mais comme ton métier, vous encore, il y a des étapes. En plus, le montage, le machin.
Ouais.
C'est le montage, ça peut te rendre fou, un montage. Mais ouais. C'est la même chose. À un moment, tu dis, bon, tu sais quoi ? Peut-être que la vibe a été juste pas là. Le montage, il fonctionne pas dingue, mais... Allez, et puis parfois, t'as même une bonne surprise quand t'acceptes un truc dont t'étais pas finalement très content.
J'adore cette fille. Allez, le aller, il m'a fait du bien.
Allez.
Pour moi,
il m'a vraiment fait du bien, ça. Ton aller.
Et sans être déceptif.
Chaque fois qu'il aura
quoi.
Un problème de contrôle, il va te voir dire
allez.
C'est, oui, d'accord, ça. Mais allez,
Kian. Et du coup, est-ce qu'il y a certains chanteurs, certaines chanteuses qui font d'abord sur scène pour un peu aller travailler le morceau, voir ce que ça donne, et qui se permettent de modifier, de dire « Ok, je vais changer cette parole, changer ce refrain », puis qu'ils rentrent en studio. Alors qu'à l'inverse, il y en a d'autres, d'abord ils rentrent en studio, puis après ils vont sur scène faire le morceau.
Je pense que ça dépend aussi de si tu es instrumentiste ou pas. Tu vois, toi, bah, par définition, il peut jouer un peu de tout, donc surtout de la guitare. Donc il n'y a pas de souci à avoir ce côté instinctif, parce que rien qu'avec sa guitare et sa voix, la chanson, elle existe. Moi, je joue un peu de tout, mais très mal. Mais vraiment mal. Donc,
donc tu peux pas dire allez,
pitié des gens parfois.
Pour l'installer avec ton équipe en disant bon.
Oui, moi ça m'arrivait de faire un truc avec un tambourin et de l'essayer comme ça, mais non, moi je pense que je viens d'une génération où j'ai commencé à faire des chansons, mais pour moi quoi, comme on ferait un journal intime. Et puis d'un coup, je suis allée voir ce que ça donnait. Puis d'un coup, on m'a dit que ça pouvait être un métier. Et puis d'un coup, je me suis retrouvée à faire de la scène. Et je ne comprenais pas du tout. Je ne regardais pas les gens au début. Ils me faisaient peur, les gens. Je te jure. Alors que toi, j'ai l'impression que tu as quand même ce truc de sur le tas, tu l'as un peu testé, quoi. C'est-à-dire.
Toi, ça t'arrive de
jouer dans des endroits où les gens n'écoutaient pas ou...
Ouais, ouais, oui, oui, bah, ça c'est clair. Non, il y a un truc. Oui, moi, de toute façon, troubadour, beaucoup plus, ouais.
Warrior même.
Mais là, en concert, ça peut t'arriver en rappel ou je sais pas, de dire attendez, en ce moment, j'ai une idée un peu en tête.
Ah non, moi, je fais pas ça, j'avoue. Je la teste avec ça en vous, balance. Quand, moi aussi, quand tu règles le son, tu sais.
Ouais. Mais pas avec le public.
Pas avec le public.
Pour aller un peu vérifier. On a fait des albums en répétition.
Ouais.
On a une bête d'idée en répétition.
Tu as le temps de la balance comme ça. Parfois, quand c'est des grosses salles, etc., tu peux avoir une heure de répète. Donc, si tu en as marre de jouer, alors évidemment, oui, il faut vérifier que tel truc sonne bien et tout. Mais après, quand tu as un groupe et que tu t'entends bien avec les gens avec qui tu joues, ou toi, tu es tout seul, enfin, en l'occurrence, quand tu as fait tes trucs tout seul, c'est tellement agréable de.
Les balances, c'est quand on arrive dans une salle et on doit mettre en place le son pour être en adéquation avec la pièce. Des fois, les pièces sont longues, donc il y a de l'écho.
C'est technique, voilà, en fait.
C'est très technique. Vos balances, elles durent 2 minutes.
8 secondes, 5 ans.
Allô, 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 nickel, salut.
Tu t'en fais pas, en vrai. Tu peux un peu, s'il te plaît. Bah ouais,
t'en fais pas, vous, des balances.
Alors, j'avais un violon au début dans mon spectacle, il y a 10 ans, et j'ai arrêté parce qu'il fallait faire des balances.
C'est vrai.
La seule raison pour laquelle j'ai arrêté.
C'est pas les balances.
On a quand même des balances, parce qu'il y a des numéros de fin, souvent, qui sont un peu plus techniques, où il y a du son, etc. Donc,
il faut
des balances du numéro de fin.
Il y a des numéros avec des bandes son et des...
Ah, donc ça veut dire que quand vous faites des spectacles, vous arrivez à 8h moins 2.
En fait, surtout en rodage, on est très détendu, quoi. En rodage, on arrive vraiment, on est là dans l'hôtel jusqu'à, jusqu'à
7h55
et après on descend.
C'est un peu ce que je disais là. C'est le rodage, en fait, c'est monter sur scène, faire ton truc pour voir ce qui marche pas, le modifier jusqu'à ce que ça marche. C'est pour ça que nous, c'est un peu à l'envers. Parce que d'abord, tu montes sur scène, tu montes sur scène, tu montes sur scène. Puis au bout d'un moment, tu dis ok, on peut faire la capta.
Et tu fais payer les gens au rodage ?
Oui, parce qu'il y a quand même un niveau.
Ouais. Tu l'as travaillé. En fait, tu ne fais pas payer les gens. Enfin, ma méthode de travail, c'est je vais dans tous les comedy clubs de Paris où les gens, généralement, c'est au chapeau. C'est un peu au chapeau. Les gens, ils payent 2-3 balles ou ils ne payent jamais des voix.
Ah,
et en fait, et là, tu joues, tu n'es même pas prévu, il n'y a pas de line-up. Tu fais ton texte, tu proposes testes. Quelque chose et tu écoutes. Tu testes.
L'équivalent, ce sera à chaque fois que tu as une nouvelle idée de morceau. D'abord, tu vas à un endroit où il y a plein de chanteurs, tu ne fais qu'un morceau. Puis tu le refais dans toutes les soirées où il y a plein de chanteurs, jusqu'à ce que les gens disent « j'adore ce morceau ». Et après, tu fais ton album, mais d'abord sur scène, tu le testes dans l'ordre.
Ouais, ça c'est arrivé.
Donc
ça,
finalement, tu testes un peu le tracklist. La tracklist, et quand tu l'as, là, c'est comme si tu allais en studio, est-ce que tu te fais capter
En même temps, vous, la réponse, elle est immédiate, quoi. C'est ça qui est...
Immédiate.
Ouais.
C'est sans pitié, c'est warrior.
Si tu ne peux pas tester les gens, ça doit être très compliqué, quoi. Je comprends, c'est marrant ça. Ouais. Moi, je ne pourrais pas arriver en n'étant quand même pas... Alors, rodé, non, puisque par définition, nous, ce qui nous arrive souvent, c'est de changer la setlist, par exemple. C'est-à-dire changer l'ordre des chansons. Tu dis, oh là, il y a un espèce de ventre mou, là. Ouais. Je m'ennuie. Et les gens semblent s'ennuyer aussi, donc on va essayer de... Mais...
C'est complètement à l'envers. Parce que souvent, vous, les gens viennent voir les morceaux qu'ils connaissent déjà pour les voir en live.
Oui.
Mais là, c'est un peu c'est intéressant. Parce que c'est souvent les musiciens, les chanteurs, les chanteuses et les humoristes, ils sont dans deux mondes. C'est-à-dire que là, tu fais ta chanson et à chacun des vers de ta chanson, tu termines, tu fais ta première rime et les gens, ils valident ou pas ta rime.
Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais
parce que nous, il y a un rire. Si tu ne l'as pas, il faut changer ta...
De l'éphémère de votre métier à vous.
Ah ouais, non, moi, je...
Il y a quand même ce truc fascinant.
Tu m'étonnes.
Ou pour le coup, tu vois, nous, tu peux faire l'imposteur un peu. Tu peux avoir des petits morceaux coup de chance au début. Franchement, toute ta vie, ça peut un peu servir, tu vois. Je pense que Gad ou toi ou machin, pour durer... c'est qu'ils juste ils sont au-dessus, tu vois, c'est qu'à un moment donné ils ont été obligés de renouveler, ils ont été bons à chaque fois.
Ah, tu peux pas refaire tes morceaux, tu peux faire
voilà,
le gars de refait le blond, je ferais
j'en voulais un nouveau. Faut prévenir pour que ce soit vraiment je vous refais.
Après,
mais faut avoir
de
la carrière et dire je vous refais
aussi, voilà, c'est ça. Ou alors
t'as de beau s'y refait quand même, parce que
mais parce que c'était plus par sketch aussi, ça fonctionnait par sketch, comme Muriel Robin ou des gens comme ça qui fonctionnent par sketch.
D'avoir des hits quand t'es humoriste.
Des hits d'humoriste. Et tu vois, tu parles du blond, mais c'est un hit. Franchement, on le veut pas. Non, on le veut pas. On veut pas qu'il nous le refasse. Donc finalement, c'est dur, quoi. Votre métier.
Tu veux voir le nouveau spectacle de Gad, tu veux pas voir le blond. Tu veux voir le nouveau spectacle de Gad.
Parce que tu sais qu'il va faire autre chose, mais que ce sera toujours bien. Ouais. Tu vois, donc tu veux un truc nouveau. Nous, quand même, il y a quand même celui qui ne peut rien sortir pendant 10 ans et, ouais, et refaire le truc d'il y a 15 ans.
Et puis, ouais, ils viennent voir des souvenirs aussi. Ils viennent voir. Mmh. Alors, ils
les gens sont heureux.
Ouais, bah, ils se sont frités, ouais, sur tel titre, ils se sont embrassés sur tel autre, ils ont divorcé sur un mmh, troisième. Donc, ils ne viennent pas. Je pense que ça, moi, ça m'aide beaucoup pour monter sur scène quand c'est des gros trucs, tu mmh, vois, des grosses machines. De te dire qu'ils viennent voir des...
C'est vrai que vous êtes là, un peu la des souvenirs la BO de, de la vie des gens, quoi. Vous êtes la BO de la vie des gens.
Ils ne viennent pas forcément voir Vianney, ouais, ils viennent voir le truc chez toi qui fait appel à leur histoire à eux. Ça aide un peu d'imaginer, parce que sinon, tu as l'impression de faire l'Annapurna parfois, quoi, quand tu montes sur scène.
Mais on a tous, c'est vrai, des chansons. C'est un truc dans la vie des gens. Hier, je pensais à ça. Je disais quand même, c'est mystérieux, la musique, et je pensais à ça, je pensais au sport, je regardais une finale de tennis hier, je me disais quand même c'est mystérieux ces trucs, aussi fédérateur, on sait pas trop d'où c'est né, mais c'est naturellement là, il y a un truc où il y a la performance physique, et ben ça fait qu'il y a des gens qui sont autour et qui vibrent, voilà, la musique, il y a ce truc là qui accompagne dans tous les pays du monde, les gens qui y sont,
c'est clair,
c'est complètement fou, et le rire c'est un truc aussi. Et même les cultures, on dit qu'ils ne rient pas, qu'ils se cachent la bouche et tout. Bah si, ils rient, ils ne font pas comme nous. Mais il y a ces trucs un peu mystérieux quand même. Hein.
Ouais.
Et la chanson, il y a ça. On a tous la chanson de notre adolescence, notre truc, nos styles. Et puis tout le monde dit « j'écoute de tout ». Mais non, tu as écouté plein de trucs. Mais il y a quand même des trucs, globalement.
Oui, il y a des points d'ancrage.
Oui, tu as des points d'ancrage.
C'est un point d'ancrage, un vrai point d'ancrage, une musique pour vous qui était un point d'ancrage.
Pouf.
Alors, on peut en mettre 2-3.
C'est
deux,
très
trois,
dur d'en trouver 2-3, quand même.
Oh, 19, alors on a le temps. On va faire 19 chacun. 19 chacun. Restez parce qu'on va avoir une vraie liste.
Les Anglais, c'est après une question de génération aussi. Hein, j'étais quand même dans les années 80 quand j'écoutais de la musique et que je commençais à m'en souvenir. Mon premier choc, c'était Pink Floyd, Dark Side of the Moon, mm-hmm, puisque j'avais 11 ans quand c'est sorti, quoi. Donc, je l'ai vécu en temps réel. Je me disais, oh là là, c'est bien perché, ça, j'aime bien.
L'air d'une bagnole, avec des parents qui fument devant.
Ouais,
alors, écoute, Dark Side of the Moon, bien sûr, sur Chérie FM. Sur Chérie FM,
non,
à l'époque, déjà,
ils nous avaient largués dans un petit stage qui était évidemment hyper baba cool. Et t'écoutais ça des heures et tu trouvais ça trop bien la vie, voilà. Et on était tous habillés en violet, on sentait le patchouli. Mais c'est vrai, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, alors après, c'est plus les Anglais, tout ce qu'on appelle la Cold Wave, c'est-à-dire The Cure, tous ces groupes-là. Et puis Peter Gabriel, après, quand il s'est dissocié de Genesis. Et puis, plus récemment, des groupes comme Radiohead, où là, je ne me loupe pas un seul événement.
Ah, Radiohead, c'est exceptionnel. Quand tu es rentré dedans dans les années 2000, 2005, ouais, 2010, c'est...
Alors voilà, typique BO, et des rêves et des cauchemars, je trouve, en plus, les deux.
Ah, Radiohead, ils adorent aussi les moments badants, hein, ça, c'est clair.
Bon, à toi, maintenant.
Non, moi, il y a un truc très... Il y a trois, les trois points d'ancrage. Il y a la folk, vraiment, un peu par-dessus tout. Un gars qui s'appelle Damien Rice, qui m'a tué quand j'étais ado. Il y a vraiment le métal, punk rock, tout ça, toute mon adolescence.
Genre Plémo.
Plémo.
Ah, donc...
C'est
quand j'ai sorti le bon mot, j'ai Plémo, quoi.
Tu t'as mis dans le mille. Ouais, voilà, Plémo, beaucoup. Acme,
N-Answer. Toute la Team Nowhere.
Ouais, Team Nowhere. Toute la Team Nowhere. Et puis, j'adorais le punk rock, les Blink, Sum 41, tout ça, j'adorais ça.
C'est un peu ma génération. Drôle.
Ouais. Et puis, il y a la chanson française, j'allais dire pure, avec des majuscules. Donc, peut-être un peu d'antan, très, très sur le texte. Donc,
Cabrel.
Maxime Le Forestier, tous les premiers guitare-voix des années 60-70. Ça, c'est ce que j'ai vraiment saigné ça. Barbara, toute cette chanson-là. Moi, c'est un peu ça, mes points d'ancrage, c'est ces trucs-là. Voilà.
Mais la musique qu'on écoute, c'est pas la musique qu'on fait, hein. Pas forcément.
Non, ça, c'est vrai. Ouais, si je faisais du Nancer demain, voilà.
Mais on s'écoute en studio, mais est-ce qu'on s'écoute après? Pas trop.
Non, après, on s'écoute plus une fois qu'on a enregistré la
chanson.
Est-ce
que tu t'écoutes, toi, des stand-up? Tu peux pas, c'est
je regarde pas
hein.
Les montages qu'on fait.
Tu regardes même pas le montage?
Non, on fait le montage, mais après, je le regarde plus, c'est fini. Une fois que le montage est fait, c'est marrant. Allez, hop, c'est bon. Est-ce que c'est marrant ou pas? C'est marrant.
Moi, j'écoute, mais en vrai, c'est vrai. En plus, nous, il y a double peine, quoi. C'est que la fameuse phrase, une blague, c'est comme une allumette. C'est qu'en plus, tu peux plus vraiment rigoler d'une blague que tu as fait 400 fois sur scène. Tu peux pas regarder le spectacle que tu as écrit et rigoler, tu vois. à part oui, un toi, moment tu aurais, imprévu. Oui, non. Donc en plus, tu passes même pas le moment que c'est censé te faire passer, tu vois. Mais est-ce que vous arrivez à imaginer, tous les trois d'ailleurs, j'ai une question, un monde dans lequel vous n'êtes pas vous-même, est-ce que vous aimez, est-ce que vous écouteriez ou est-ce que vous regarderiez ce que vous faites?
Ah, ça c'est dur. Moi, je pense que je serais très dur envers moi. Je me suis déjà posé ça plein de fois. Ouais.
Moi, j'écouterais deux, trois trucs quand même de moi.
Bah ouais, ouais bah,
j'espère.
Enfin, on est tous d'accord. Ce que je veux dire de ce mois-là.
On t'écoute, hein, donc on est tous d'accord. On va pas dire. Oh.
Non, non. Mais je pense qu'il y a pas.
C'est compliqué, parce qu'on pense que c'est prétentieux, mais en vérité, si t'arrives vraiment, imaginez que t'es pas toi. Tu es la toi de.
Est-ce que toi, tu te marrerais à tes blagues, quoi?
Ouais.
Je pense que mon parcours m'aurait plus intéressé que ce que je fais.
Je sais ça.
En me disant, ah, ce gars a fait ça. T'aurais putain, voulu... c'est exactement comme moi.
Tu voudrais te rencontrer pour te donner des conseils.
Et me dire, vas-y, fais-le, t'as raison, fais-le, fonce et tout, tu vois. Et puis c'est tu drôle, vas t'éclater là. Là-dedans et c'est plus. Ouais.
Mais tu t'assois, tu te regardes. Imagine, t'es pas toi, c'est dur.
C'est dur.
Est-ce que tu tapes des barres à ton spectacle?
J'en sais rien.
Non, mais il y a deux, trois trucs où je me dis, ça, c'est drôle.
C'est schizophrénique comme truc.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est drôle.
Schizophrène, ouais, je pense qu'on peut l'être. Moi, j'ai parfois. Quand j'ai du mal à monter sur scène, je sais que la personne qui est sur scène, c'est mon avatar héroïque. C'est moi, hein, tu vois, ça. Sinon, je ne serais pas là au bout de 30 ans. Parce que je pense que si tu es trop schizophrénique et si tu es trop une imposture par rapport à ce que tu es toi, au fond de toi, tu ne tiens pas longtemps. Mais de temps en temps, quand même, moi, je fais appel à cet avatar un peu guerrier, un peu héroïque. Tu n'as pas tous les jours, quand tu es fatigué et tout, envie de monter sur scène et... Tu vois, sur les festivals où là, t'arrives et t'as 50 000 personnes, tu fais « Oh oui, mais là, moi j'ai piscine là aujourd'hui, j'ai pas envie. » Donc
Mais il y a cet avatar qui vient, qui prend le dessus et qui te...
Oui,
qui
alors qui si je regardais, moi, cet avatar, de temps en temps, je dirais « Non, mais calme-toi, là, fin, tu vois, c'est quoi cette robe ?» Enfin, tout ce que les gens peuvent te dire sur les réseaux, mais bon.
Et toi, Vianney, tu t'écouterais?
Je sais pas, franchement, elle est dure ta question, mon gars, je sais pas.
J'en merci Vianney, c'était Vianney.
Voilà.
Mais après, en même temps, souvent, parce que vous avez fait pas mal de duos, et vous faites des duos avec des gens qui sont aussi dans votre catégorie. Non, lui non, beaucoup plus.
C'est un spécialiste.
Mais du coup, il y a des affinités artistiques qui me font dire, oui, c'est logique que Vianney soit fan de telle personne. C'est pour ça qu'il fait un duo. Mais donc, s'il est fan de telle personne, normalement, il serait fan de Vianney.
Peut-être.
Putain, c'est pas bête, c'est mathématique ton truc, mais ça marche.
Ouais.
C'est vrai.
Une fois, j'en sais rien. Axel Bauer, oui, c'est logique que Zazie aime Axel Bauer. Donc, logiquement, si elle était Axel Bauer, elle voudrait faire un duo avec Zazie. Donc, Zazie qui serait Axel Bauer.
Ça, c'est dans un cadre idéal.
Mais c'est pas vrai.
Mais on est d'accord. Voilà.
Ah, parce que tu les aimes pas, les gens qui
font
des duos.
Non, mais tu vois, moi, je sais.
J'aurais adoré qu'ils disent je les déteste, les gens qui font des duos. C'est du marketing.
Business.
C'est ma
maison de disque. Non, mais la collaboration, c'est au-delà de ce que j'écoute vraiment ça ou pas. C'est un feeling, tu aimes la personne, il peut y avoir mille raisons.
Moi, j'ai pas tous ces albums et je suis sûre que s'il répond honnêtement, il va dire que c'est pareil pour moi.
Oui, c'est pareil.
Tu vois, mais par contre, pas de faire la musique ensemble.
Il y a des chansons de Zazie
ça,
que j'ai saignées. Non, j'ai pas tous ces albums. Mais j'ai saigné des chansons, je connais pas tout le répertoire. Voilà. En revanche, elle, maintenant que je la connais bien, c'était un rêve de faire un duo. Et puis, y a, au-delà de ça, y a, parfois, même si tu n'écoutes pas ou tu n'adhères pas à 2000% à un truc, tu sais le talent que c'est derrière, le travail, tout ça. Donc, tu aimes. Nous tous, on peut être critique de certains trucs, mais quand même, on a un regard bienveillant sur le machin parce qu'on sait que le gars, il connaît son affaire. Tu vois, et heureusement, enfin, il faut être comme ça, en tous les cas, je crois, hein, parce que c'est juste un respect, tu vois. Donc moi, j'ai ça avec plein de gens. Je connais peut-être une ou deux chansons. Bon, Zazie, beaucoup plus en réalité, quand je te dis chansons françaises et tout, évidemment. Mais par exemple, je ne vais pas mentir, je ne connais pas toute Jules, il y a 1000 morceaux. Je ne vais pas faire le mytho. Alors, en revanche, j'en connais
mais
vraiment 15.
Même Jules, il
ne connaît
pas tous les morceaux de Jules.
Voilà, c'est ouais, personne.
C'est moi, ça.
Ouais. Des fois, il écoute, il fait, c'est bien, ça, il faudrait faire un duo. Non, c'est toi. C'était avant-hier. Ah oui, j'en ai fait 4 avant-hier. J'ai oublié ça.
Et tu vois, je connais pas tout, mais le gars, je le kiffe. Il y a 15 morceaux que j'ai saignés. Bon, ça suffit, on est liés pour la vie. Voilà. Tu vois, c'est ça. Tu... 15 sur 1000, c'est pas grand-chose.
Il suffit d'un morceau, même pour être lié à la vie avec un artiste.
Ouais, c'est bien sûr. Jouer de la musique. Donc, c'est deux enfants. Tu dis, vas-y, on joue, quoi. Tu préfères la piscine ou on fait de la construction? De temps en temps, ça donne rien du tout. C'est là où il faut avoir le courage de se dire que, bon, bah, finalement, on a
joué. Ça t'est arrivé, ça? T'as déjà écrit un truc avec un mec et en fait, c'est ciao.
Ouais.
Ah bon? Oh, merde.
Moi, je vais pas te dire qui.
Un truc où tu devais faire un duo?
Non. En fait, moi, je... Alors, C'est pour ça que j'admire la démarche de Vianney. J'ai beaucoup de mal, moi, à faire ça, à aller vers quelqu'un en disant « Tiens, vas-y, on va faire quelque chose ensemble. » Donc, ça m'a...
T'attends qu'on vienne te chercher, pardon, excuse-moi. T'attends
ouais,
qu'on vienne te chercher.
Je pense que comme c'était, comme je t'ai dit, c'est une démarche un peu autiste au départ. C'était comme un journal intime. Dire « Mon intimité correspond à la tienne, vas-y, on va les mélanger », ça me semblait très impudique, mais très impudique. Donc, ça m'a arrangé, en fait, que les gens viennent vers moi... puis après, c'est peut-être un truc de fille, tu disposes, tu dis oui, non, ça, non.
Mais... C'est pour ça que tu as mis une espèce un peu de garde-fou au départ, de ce que j'ai compris. Je crois que tu avais partagé
ouais, c'est
un
vrai.
Message de Zazie qui disait attends, on va voir ce que ça donne. Et si ça donne rien, on est d'accord, on n'est pas obligé. Quoi.
Alors sache que c'est ce que je réponds moi aussi. Et par contre, c'est la seule personne qui m'a
dit,
répondu.
J'ai halluciné, tu m'as dit ce que je dis d'habitude. Parce que...
ouais, moi, c'est ce que je dis tout le temps parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire, tu vois. On peut avoir sur l'idée, sur le papier, l'idée elle peut être super, et puis finalement, bon, dans la réalisation.
Oui, ou même un jour après, bah, tiens, lui il va finir par se dire moi, bof, ou même ça fait doublon dans mon album, tu vois, il y a aussi plein d'autres critères.
Mais par contre, on ne l'avait jamais faite. T'es la première à m'avoir dit ok, vas-y, mais si c'est pourri notre truc, on le sort pas.
Mais ça ne peut pas créer une vexation. C'est justement par anticipation de cette vexation qu'il y a ce garde-fou un peu.
Bah,
parce
cas,
que si on a un qui adore le morceau, il dit ça, c'est ma life. Et toi, dis, mais non, il est éclaté le morceau qu'on a fait. J'imagine la situation, je me dis, ah, c'est pas...
Alors, ça va avec le lâcher-prise de tout à l'heure.
Ouais.
C'est devenu toi, le lâcher-prise, tu vois.
Accord Toltec tellement... numéro 2.
J'ai une chemise de lâcher-prise.
Ne pas prendre l'avis de l'autre pour une affaire personnelle.
Ouais, mais t'imagines, t'es fan de quelqu'un, il te dit, ok, on fait un duo, tu seras dans mon album, vous faites le truc, il fait le bof.
À quoi correspond le j'aime ou j'aime pas? Si tu vois, s'il y a un truc que j'aime et que
il
aime pas,
il faut l'enlever. Il faut
c'est pas moi qui l'aime pas. Ouais. Ça va être la couleur.
Pardon, tu vois, j'étais complètement déconcentré par cette carafe.
Bah, je te le refais. Attends,
pardon, je disais ta carafe, elle est pourrie, mais
non,
non,
elle
moi
est
qui
énorme, suppose. Elle est super belle. Mais c'est une théière.
C'est une théière, c'est une théière.
Ok. Et l'eau, elle est potable?
Elle est froide.
J'espère. J'espère.
Si moi j'aime un truc, et c'est ça, je pense le plus dur, moi, en tout cas en musique, c'est accepter. Que quand on te dit j'aime pas, c'est pas toi qui est en question, tu vois. C'est pas je ne t'aime pas, c'est j'aime pas. Quand tu es en studio avec
pas mal
des gens qui vont
pas,
essayer de faire un truc et puis tu fais une guitare alors que le gars c'est un super guitariste et que en fait ça va pas avec ton morceau, j'aime pas. Et j'aime pas, c'est pas j'aime pas ce que tu es, c'est juste que ça ne matche pas avec mon univers. Et en fait, c'est même mieux ce que tu es en train de faire que ce que j'avais prévu. Mais je préfère le faire comme ça ressemble à ce que je suis. C'est hyper dur, mais c'est fondamental. D'où le lâcher prise.
Mais les grands, ils ont ça. Hein. Ils ont ce truc de. Ils comprennent, tu vois, ils savent.
Ah ouais,
quand
clairement.
Même. Sur le projet là que je sors, j'ai enregistré une batterie, j'ai enregistré un batteur. Qui a un immense batteur qui s'appelle Loïc Pontieu.
Oui.
Ces batteurs, bon, bah, Véro, Sanson, mais ça va de Véro, Sanson à Bruel, à Johnny, à ce que tu veux. Il a joué avec tout le monde et en studio pour tout le monde.
C'est bon, le Manu Katché des batteurs, quoi.
C'est le Manu Katché.
La même génération.
Ils ont été, ils ont beaucoup joué un peu l'un et l'autre, tu vois. Je veux dire, à un moment, ils prenaient tout, quoi. Et bref, et Loïc, je l'ai fait jouer sur le duo avec Florent Pagny. Et puis, à la fin, j'ai dit, puis il y a un duo, j'aimerais bien essayer. Est-ce que tu veux jouer? C'est avec Mentissa. C'est une batterie très pop, mais il faut que ça groove quand même, tout ça. OK, et puis tant qu'on y est, on est que tous les deux dans le studio, je l'enregistre. Il enregistre la batterie. Puis je l'ai monté et tout. Hein. J'ai passé une journée sur la batterie, je regarde. Bon, et puis je ne l'ai pas gardé. Et on parle de Loïc Pontieu qui est intouchable,
un
maître.
Et lui, il ne va pas éclater.
Et alors lui,
dos,
je peux
hein.
te dire, je l'appelle, je suis tout désolé. Je suis désolé, lui, vraiment, j'ai tout retourné, mais ça ne marche pas. Ça marche mieux, mon petit beat de Mouis que j'avais fait avant et tout. Mais qu'est-ce qu'il en a? Il dit, arrête de m'appeler, t'es trop mignon.
T'es sûr? Parce que moi, je l'ai vu, il est partout dans le métier en train de dire que tu me dis merde. Si ça raconte.
Non, mais voilà, sûr. Lui, bah, ouais, il comprend tout de suite parce qu'il sait que ce n'est pas lui que j'aime pas.
Je parlais plutôt dans l'autre sens, tu vois. Genre, je sais pas, tu prends la personne dont tu es le plus fan, ou quelqu'un de très important, ou même quelqu'un qui pourrait te donner un virage dans ta carrière si on part au début. Tu vois, genre Alain Souchon, il t'appelle au deuxième album, il dit viens dans mon album, je sors enfin un nouveau truc.
Je suis hystérique.
Viens,
t'es
trop contente, tu chantes, toi tu trouves que c'est chambé, et lui il fait ce sera pas dans l'album, c'est pas ouf.
Là, tu éclates en sanglots et tu te supprimes. Non, je rigole.
Tout l'inverse de tout ce qu'elle a dit avant. Ah non, maintenant que tu m'as mis en situation, en fait.
C'est vrai. Là, il y a un enjeu.
Tu vois, parce qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois, Vianney. Je pense là, quand tu fais un album de duo, si à un moment il y en a un qui marche pas et que tu dis à la personne, en fait, ça marche pas.
Mec, j'ai eu un peu peur de ça quand même.
Ça doit. Surtout toi, qui les appelle. Oh, grave. Tu vois ce que je veux dire.
En plus, tu sais quoi, il y a 20
titres. Veux-tu m'épouser un peu, tu vois, la personne. Veux-tu m'épouser dans mon album? Et à un moment, tu dis non.
Exactement. Et moi, je ne me rendais pas compte, j'en faisais beaucoup. Tu vois, je le faisais pas, je réfléchissais pas à l'album au début. J'ai fait des duos parce que j'aime bien rencontrer les gens et tout. Puis à un moment, je te dis, je regarde, j'en ai 18 et tout. Je sais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais mettre les 18, je suis obligé. Tu vois, je vais pas faire un tri et en appeler 4 artistes et dire, bah en fait, non. Tu vois, non, pas possible. Et bref, et en fait, j'ai tout mis et je suis assez d'accord avec toi, j'avais pas le choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était bien comme ça.
Je pense qu'il y a aussi un truc qui t'aide, c'est que déjà, tu as quand même un peu confiance en toi et surtout, tu es auteur-compositeur, tu vois.
Oui.
Donc, ça peut pas vriller trop, parce que quand même, tu le composes, donc tu vois
ce que je
veux
dire. Oui, c'est clair.
Ou tu le co-composes, mais tu gardes quand même un peu la main là-dessus.
Mais il y a une chanson, mon producteur, il m'a dit,
ça doit
être compliqué,
parce qu'ils sont que interprètes, tu vois.
Ouais.
Enfin, pas tous.
Oui, quand tu es que interprète, tu dépends énormément de, un peu comme les comédiens qui sont pas réels ni auteurs.
Complexe du comédien qui parfois prend trop de place en société parce qu'il veut rappeler, qu'il veut expliquer qu'il n'est pas qu'un exécutant, qu'un acteur.
Ouais. Que Marquise des Anges.
C'est déjà énorme d'être un interprète.
Tellement énorme.
Tu dépends un peu trop du désir des autres. Mais ce qui te met dans une vulnérabilité terrible et une patience énorme.
Bien sûr.
Mais par contre, c'est être un interprète, c'est d'ailleurs, les interprètes sont glorifiés dans notre société.
Moi, je trouve ça extrêmement...
C'est une vraie discipline aussi, quand même.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup ce truc-là chez plein d'acteurs, quand même. C'est un délire, les acteurs, hein, les gars.
Alors que les chanteurs, ils sont tellement les pieds sur terre.
Bah, tu sais quoi, c'est pas un truc de pieds sur terre. Déjà, on est moins nombreux.
On est moins payés.
on est moins payés, peut-être, ça, je sais pas.
Ah si, un film, tu le sers. Hein. Ça, c'est fatal aussi, tu vois.
Ah ouais, ouais.
Tu le sais, le mercredi, c'était à part quelques exemples, tu vois, un petit trois hommes et un couffin qui va par bouche à oreille arriver à quelque chose, mais c'est quand même
Attends, les acteurs, arrêtez votre hypocrisie maintenant.
Vas-y, explique-moi.
Arrêtez. Comme ça, on aura la vignette.
Vianney trash les acteurs.
Non, parce que c'est comme d'hab.
Ce qu'il lit sur les acteurs est incroyable. Et après, je dis, on mettra
juste play. Je déteste les acteurs.
Non, en plus, je dis ça, je dis les acteurs. Mais je dis ça avec de la tendresse, parce que je trouve qu'il y a quand même, si c'est vrai, un ADN commun, ou souvent, en société, il y a pas mal d'acteurs qui prennent beaucoup de place.
Qui accaparent
voilà.
Un peu, ouais.
On est honnête là-dessus, dit la chose.
Bien sûr, c'est une faille d'amour.
C'est une faille d'amour.
Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a un rôle pour une personne sur la Terre au moment T? Il y a cette espèce de compète de ouf, en fait.
Peut-être. Je pense que c'est une faille. C'est mettre ton amour propre dans le rire ou l'attention de quelqu'un. Je pense que c'est ça.
Et puis, il y a aussi, mais je te dis, ça rejoint l'interprète. Alors, pour moi, interprète, c'est en effet extraordinaire. Un grand interprète, je suis incapable. Si tu veux, une Céline Dion, c'est qu'une interprète. Johnny, c'était qu'un interprète. Bah, c'est immense. Donc, je suis comme toi, un bébel, il ne réalisait pas. Jean Dujardin non plus. Pour moi, c'est des monstres.
Ouais, c'est des monstres.
Bon, et ben en fait, t'en as qui savent aussi faire de la réal. Je pense à un Canet, c'est un monstre partout. Bah, c'est comme ça. Mm-hmm. Sauf que parfois, t'as des interprètes, même en musique, ils essaient de dire j'ai un peu composé quand même. Non, mon gars, t'as pas composé, mais c'est pas grave, parce que ce que tu sais faire, là, je sais pas le faire, et t'inquiète pas, personne va regarder le détail des crédits du truc.
Ouais, c'est marrant.
Il y a un complexe de l'imposteur, tu veux dire.
Ou un complexe de celui qui n'écrit pas l'histoire, qui fait que la raconter, alors que c'est quand même un...
Celui qui ne serait qu'un interprète, tu vois, de dire, mais je te jure, je peux aussi réaliser, je vais essayer de le montrer, tout ça. Bon, on peut pas tout faire, tous. Voilà. Donc, moi, je
dis celui qui ferait tout.
Mais non,
on peut pas tout faire, dis-je, un interprète, moi.
Producteur, par exemple.
Ça aussi, j'étais en train d'essayer de m'imaginer si je faisais pas mes textes. Est-ce que je supporterais de chanter? Je pense pas, en fait.
Mais par exemple...
Enfin, ça m'intéresserait pas, en fait.
Non, mais il y a tous des trucs qu'on peut pas faire. Quand on sait faire un truc...
Le soldat rose, tu as écrit les paroles?
Non.
Mais tu interprétais, du coup?
Oui, mais ça, c'était pour... c'était juste un titre. C'était les Souchons qui avaient fait un truc super.
Ouais.
Ça me faisait rire. Tu vois, ça, c'était plus pour une histoire dans un
Goldman qui arrive et qui t'écrit tout un album. En vrai, ça va te saouler, quoi.
Mais alors que, ça peut être très, très
Vianney,
beau.
Qui a écrit pour Céline Dion. T'as écrit pour Céline Dion?
Ouais.
Je sais pas. Je sais pas. C'est pas que ça va me saouler, c'est peut-être que... Je sais pas.
Non, mais tu serais pas à ta place, enfin, première. C'est pas... Ton ADN, c'est quand même vraiment...
Ouais, en fait, mon ADN, c'est pas l'interprétation. C'est un truc que je fais après, tu vois. Mais parce que bah, je suis mieux servi par moi-même que par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que j'ai du mal à décortiquer le côté compo, écriture, et puis après... Donc, être interprète seul, en fait, ça me semblerait assez aberrant, tu vois.
J'aimerais qu'on fasse un petit jeu, les amis.
Ah.
Ça vous dit, vous aimez les jeux?
Alors, ben, écoute, ça dépend lesquels, mais...
Genre, quelqu'un dit non. M'amuser? Très peu.
Quoi?
On a un jeu musical qui s'appelle le multi-blind test.
Ouais, vas-y.
Oula.
Navo, qu'est-ce que le multi-blind test?
Ça, je sens, sens que je vais me faire exploser.
T'aimes bien les multi-blind tests ou pas?
Je
les
suis nul.
D'accord.
Mais ça va être drôle. Vous allez voir le niveau. De...
Mais il se trouve que là, la petite particularité, contrairement à un blind test classique, c'est que je vais envoyer 6 chansons en même temps.
Même temps.
Et quand vous en trouvez une, bravo, je l'enlève et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2. Okay. Et là, il faut trouver les 2 d'un coup.
Vous voulez bien lever la main. Lever la main.
Le logiciel pour faire ça.
On lève la main avant.
C'est... Ah, ok, ok.
Le garagement. Alors, on est vraiment sur YouTube, extraire le MP3, mettre dans GarageBand et régler un peu le son parce que tout n'est pas...
Attends, ça va être le bordel. Ok.
Ok.
Vous êtes prêts?
Quand vous voulez. Multi-blind test.
Ok, Eminem.
Ouais, yeah, Eminem.
Quel titre, Eminem?
On n'est pas obligé de le titre, mais si tu l'as, c'est incroyable.
Il y a une meuf, y a une meuf en duo là, avec lui là-dessus. Là.
Non, ça, c'est une chanson.
Je crois pas.
J'ai dit n'importe quoi.
I'm sorry, mama.
C'était Not Afraid.
I'm not afraid. Ouais, c'est pas de meuf. Il n'y a pas de meuf qui chante derrière.
Peut-être que. Ah, si, peut-être dans les chœurs, mais.
Everybody.
On peut pas la mettre en vrai.
Non, mais c'est bien. Déjà, on fait le tri. Je te remercie. Il n'en reste plus que 5.
Donc, on en enlève une.
Grâce à toi, il n'en reste plus que 5. Oui, Kian.
Girls Wanna Have Fun.
Oh oui!
Oui, oui.
Mais tu l'avais aussi?
Mais j'étais en train de me dire, c'est quoi cette voix aiguë? Mais c'est Cindy Lauper. Cindy Lauper, bien sûr.
Ça, Cindy Lauper.
T'es trop fort.
Il n'en reste plus que
4. C'est les deux fréquences de dingue. Hein. Eminem, il est...
Ça, oui, bam, bam, bam.
Et Cindy, là-haut.
Okay. Merci, Cindy, ça nous aide un peu.
Ok, il y a Linkin Park. Linkin Park, les gars.
T'en as trouvé un? Si t'avais trouvé Linkin Park.
C'était ça.
C'était Numb.
Et il n'y aurait pas un petit.
T'as rigolé au bon moment, je pense que tu l'as entendu.
Alors je laisse parce que je veux qu'il le trouve.
Ok.
Mais t'as compris que je l'avais, trouvé.
Je crois, vu que t'as rigolé au moment.
Ok, pardon.
Kenneth est un grand joueur. Il adore jouer, ça se voit.
Mais
il a
non, son œil, c'est s'allumer. Moi, j'écoute ça, je suis fasciné.
David Guetta. C'est ça que je cherchais comme son.
To be free.
Ah voilà, yes, tu
c'est
l'as
trouvé. C'est ça.
Il y a To be free.
Il y a To be free.
Mais
c'est quoi, je la connais même pas, cette chanson, je dis la vérité.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libre.
Mais donc il n'y a pas David Guetta, mais
y a pas David Guetta.
C'est peut-être le rythme.
Hey, hey.
C'était peut-être le rythme des To Be Free qui ressemble.
To Be Free, il y a un moment, mais t'imagines.
Sur 2-3
billets, pardon.
Il n'y en a plus que 2.
Vas-y.
Alors maintenant, il faut les 2 en même temps. Si on arrête et qu'on dit qu'un des 2, je dis ouh, c'est pas sympa. Et vous êtes viré du studio.
D'accord.
Ok, bon, bien.
On peut faire ça, qu'on peut virer
du studio. On peut le faire salement si tu veux.
Attends, je me concentre.
C'est inaudible.
Oh, oui, mais je connais pas leur nom. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Oui, tu peux dire le titre.
Alors, don't worry, be happy. Et.
L'autre,
et Elton John. Voilà,
je connais.
Elton
John. Sacrifice.
Et oui, c'était Bobby McFerrin
avec. Ah, c'est Dua Lipa, là.
Oui, mais alors, c'est dans le désordre.
Eh bien, bravo, tout le monde a gagné.
Est-ce que ce jeu vous a plu
chez Jacques Martin.
Ouais, cool. Oui, alors coup, c'est marrant. C'est bien, les amis. Il s'appelle comment? Il faut un nom.
Multi-blind test.
Ah, multi-blind test.
Ouais, ou le fréquence test. Parce qu'en fait, c'est
un truc de fréquence.
Tu as toutes les fréquences. Si tu arrives à isoler les fréquences, tu peux trouver des petits trucs.
C'est ça.
J'ai deux questions.
Wow.
La première, c'est quoi aller bien pour vous et comment on fait pour aller bien?
Comment on fait
pour aller bien?
Je préfère un bon morceau, un bon.
Justement, c'est une question que je pose à chaque fois dans un bon moment et je trouve que ça tombe très bien parce que vous avez écrit une chanson là-dessus. Mais c'est quoi déjà aller bien? Parce qu'il y a une injonction un peu dans notre société de dire il faut aller bien, il faut faire des choses, le bonheur, le machin, l'injonction bonheur, injonction, c'est vraiment genre il faut, c'est le il faut, sans même savoir pourquoi. Donc c'est Aurèle d'ailleurs qui dit ça sert à quoi dire aux gens de thème si tu sais pas pourquoi. C'est intéressant. Ouais. Donc là,
mais je trouve que la recette est quand même pas la même pour tout le monde.
Alors, c'est quoi aller bien?
Alors, au début, c'était un truc de transit, hein, l'expression. Tu sais ça?
Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous allez à la selle?
Voilà.
D'accord. Comment t'allais?
Je vais bien parce que j'ai bien fait.
Ce qui est un bon signe. Ce qui est un bon signe.
Parce qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de maladies. Voilà, c'est ça. Maintenant, à toi.
Comment sort avec un fun fact?
Voilà, ça va bien.
Allez bien, c'était.
Là, tu dis ça va bien. Qu'est-ce qui fait que tu dis ça va bien? Quel est ton indicateur de réussite?
Alors,
d'aller bien?
Moi, je pense que c'est il y a deux trucs. Il y a capacité à aimer et à être aimé et se sentir aimé. Il y a vraiment ce truc-là. Si tu te sens pas considéré, aimé par les gens qui t'entourent. Franchement, c'est dur d'aller bien. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ados aussi qui se sentent pas bien, tu vois. C'est aussi, ça va avec le truc, je trouve. Ado, t'as les profs qui te prennent pas au sérieux, les copains qui voient pas où tu vas non plus. C'est plus dur. Et je pense que pour aller bien, faut se sentir aimé. C'est un truc. Parole de chanteur ou d'acteur ou de ce que tu veux. Et puis, il y a quand même capacité à aimer. C'est le rapport à l'autre. Et tu vois, si tu ne penses qu'à être aimé, et on voit bien ceux qui arrivent à des niveaux de notoriété dingues, mais qui restent malheureux. Si tu penses qu'à être aimé, il te manquera toujours un truc si tu n'aimes pas. Donc, je pense qu'il faut être capable vraiment de transformer ce truc-là et d'aimer en retour.
Est-ce que je peux poser l'équilibre. Une autre question?
Ouais.
C'est quoi aimer? Je suis désolé de poser cette question. C'est peut-être un peu puant. Mais c'est quoi aimer? Vraiment le côté genre
non, mais moi,
physiquement ou qu'est-ce qui se passe quand on dit c'est bon, ça j'aime? Ou ça, elle, j'aime, ou lui, j'aime.
Ce que je trouve intéressant, c'est justement le verbe aimer intransitif. Pas aimer quelque chose, voire même pas aimer quelqu'un. C'est aimer, point, barre, sans complément d'objet direct derrière. Aimer cet échange, c'est pas dire qu'on va se revoir. Aimer la mangue là, qui est dans le verre,
c'est dit.
Okay. Bon, pas en l'air.
Je comprends ce que tu dis. Après, c'est peut-être aussi un truc de je pense, d'âge aussi. Mais moi qui vais sur mes 60, là dans quelques mois, je trouve qu'il y a un truc très tranquille dans aller bien à justement éteindre le fait d'être aimé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et pourtant, j'ai le métier qui démonte le contraire, enfin, qui dit le contraire. Mais le fait d'aller bien sans trop justement le rapport ou la comparaison à même aimer ou être aimé, quoi. C'est-à-dire que tu peux aimer une situation, tu peux aimer un moment, un coucher de soleil, etc.
T'as raison, en fait. C'est pas aimer l'autre, forcément, c'est aimer. Faut être capable d'aimer.
Voilà.
Et aimer, c'est en effet aimer son quotidien, son travail.
Trouver du plaisir à...
Ouais, aimer, avoir le sourire, injecter de la poésie dans sa vie. Pas être trop ni dans le passé ni dans ce qui va se passer plus tard parce que sinon on est mal barré. Être dans cette espèce de présence, mais c'est du boulot. Mais je trouve que pour moi c'est ça, en tout cas, aller bien, c'est...
T'as bossé là-dessus?
Ouais. Alors j'ai eu tout le temps un truc qui était assez spontané, donc qui manquerait quand même beaucoup dans un certain épicurisme du présent. Mais oui, je pense que j'ai bossé, puis la vie fait aussi que tu bosses. Quand tu as eu des amours super, mais qui n'ont pas duré ou qui ont duré un certain temps, et puis voilà, on se quitte, tu finis par évidemment chercher ailleurs un équilibre, ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas d'amour dans ta vie. Il sera peut-être même mieux si tu l'as sans le demander ou sans avoir ce besoin de d'être aimé qui est un peu maladif et que j'ai pourtant comme à peu près tout le monde, quoi. Donc ouais, ça se bosse, ouais.
Je crois, attends, moi je t'ai développé une théorie, hein.
J'ai adoré.
Remplacer le besoin par l'envie.
Non, j'aime bien.
Et pour vous, c'est quoi alors?
Remplacer le besoin par l'envie, un peu comme dans la chanson du coup.
Ouais.
Quand c'est un besoin, ça devient une souffrance, alors que quand c'est une envie, c'est que de l'amour.
Toi, c'est ça, toi?
Je sais pas, lui, il a demandé qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour. Moi, allez je bien. Le cite dans le texte.
T'as dit allez bien au départ.
Ouais. Alors, ouais, allez bien, vous êtes parti sur aimer.
C'est quoi votre meilleure théorie?
Il est parti sur aimer.
Du coup, après toutes ces réponses que vous accumulez.
Allez bien, c'est pour moi, ça correspond à une forme de silence mental. C'est con, mais...
Tranquille.
Allez bien, c'est...
Calme.
C'est quand l'ambition n'est qu'un jouet et non pas une raison d'être, tu vois, genre côté, j'ai de l'ambition pour mon spectacle, je veux qu'il soit réussi, mais c'est pas ce qui va conditionner le fait que je vais avoir le silence dans ma tête. Après, j'ai longtemps souffert de dépression chronique, de choses comme ça, donc je sais que moi, le simple fait de pas avoir ça, c'est déjà une grosse victoire de genre, je bois un café, tu vois, je me rappelle très bien, d'ailleurs, j'avais 26 ans, je sortais d'une dépression et je me rappelle, j'avais mis du sucre dans mon café. Je me suis acharné. Il est sucré, le café. Et ça m'avait choqué de me dire...
Pour une fois, t'étais pas...
Ça m'avait rattiré, comme tu dis, ça m'avait rattiré dans la présence de ça. Et ça m'avait
sorti de ton hyperactivité mentale.
Voilà,
quoi,
c'est ça.
Hyperactivité. Les petits moulins qui vont avec.
C'est ça. Et ça, c'est déjà une forme d'aller bien. Par contre, j'ai découvert l'amour. J'ai découvert aimer, mais en l'absence de conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de conditionnel dans l'amour. Et ça, je pense que c'est un vecteur de kiff. Ça te relâche une pression, ça te relâche tout. Et quand on enlève la condition à l'amour, c'est...
Oui, c'est donc aimer sans projeter, quoi. En fait,
c'est ça.
On est pas mal.
Oh, on est bien. Mais toi,
on est pas mal.
Oui, bah, ça rejoint un peu tout ce que vous dites. Ça et beaucoup baiser. Non, oui, en fait, ça rejoint ce que vous dites. Je vais faire un doublon. En gros, pour moi, quand tu comprends que les relations et l'amour, c'est pas la même chose, en fait, ça te dégage de beaucoup de choses parce que tu peux gérer tes relations sans te dire que ça remet en question ou pas ton amour. Tu peux aimer très fort quelqu'un et dire mec, ça marche pas ou meuf, ça marche pas. Et inversement, avoir des relations très saines avec des gens dont t'es pas spécialement amoureux, t'es pas dans un amour total. Et quand tu comprends que ça te permet de vachement faire le tri. Moi, je suis heureux et je vais bien quand mes relations sont travaillées et saines avec les gens autour de moi.
Mais ce qui est marrant quand même, c'est que ta première question, c'était « c'est quoi aller bien ?» Donc, on est parti direct sur l'amour et ou être aimé.
Mais ça fait partie. Et c'est le business du cinéma américain depuis 70 ans.
C'est le business de la vie. Hein, parce que même là, il y a des gens qui nous regardent, je pense qu'eux, ils n'arrivent jamais à aller bien. Tu vois, ça, c'est, on en connaît quand même plein. Et puis heureusement, tu as des psys, tout ça, qui font un beau travail, machin. Mais globalement, il y a des failles, en fait. C'est que tu ne nais pas malheureux. Je ne crois pas qu'il y ait un bébé qui naisse dépressif, tu vois. Je ne crois pas à ce truc-là, moi. En revanche, dans l'enfance, tu as des micro-failles qui peuvent s'accumuler ou non. Et puis, tu gères juste ce truc-là. Donc, aller bien, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde au fil des années. Je pense qu'à la naissance, finalement, je pense qu'on est assez égaux par rapport à ce truc-là. C'est-à-dire, vraiment... l'humain en soi, quoi, quand il
feuille blanche.
Le petit bébé, feuille blanche, franchement, si tu l'aimes, si tu lui donnes tout, tu minimises vraiment le risque de dépression, de machin et tout. Et puis, comment son rapport à l'école, ensuite, tout ça. Il y a des petites failles qui vont arriver.
Depuis pas très longtemps.
Non, mais c'est vrai que je suis papa, mais je pense pas à ça. Non, je pense pas à ça. Je pense à nous, quoi.
Quelle
nous
responsabilité.
Tous ici.
Non, mais même nous, en tant que ex-enfants.
Mec, tu te rends compte que tous les gens qui font notre métier, en fait, il y a un côté flingué quelque part, même ceux qui paraissent le plus
oui,
normal,
il y a forcément un truc
posé.
Je peux me permettre, ouais. t'es extrêmement sympathique, t'es extrêmement cool et tout.
On dirait que tu vas dire un truc très négatif.
Au contraire, mais j'ai du mal à voir ta faille.
Bah ouais.
Je la connais parce que je connais tes chansons. Je la connais par rapport à ton t'exprimer, mais c'est vrai que tu dis on est tous un peu flingués et tout. Mais je me dis, c'est quoi le côté flingué de Vianney?
Non, mais en fait, c'est plutôt... Il y en a qui ont la chance, et je considère que j'en fais partie, d'avoir un truc, un pansement, une possibilité d'apaiser des choses. Franchement, la chanson, moi, depuis tout petit, c'est vraiment ce truc-là. Depuis adolescent, j'ai vraiment des souvenirs adolescents de journées où ça n'allait pas du tout, où j'étais dark, quoi. J'étais pas bien, comme un ado qui va pas bien. Donc rien ne va, le monde est terrible, personne ne comprend, machin. Et je me souviens vraiment du bonheur après avoir joué de la guitare, juste ça, quoi. Il y en a d'autres, bah, c'est de taper dans un ballon avec des copains, machin, mais...
Je pense qu'aller bien, c'est aussi avoir le mode d'expression du mal-être, ou du mal-amour, du malaise. Si tu l'as, que tu fasses de la peinture, du sport, de la musique, de l'écriture, tout ça, c'est hyper thérapeutique, c'est hyper, hyper tranquillisant, quoi.
Aller mieux, donc écrire pour aller mieux.
Écrire pour aller mieux et
exprimer,
écrire
et s'exprimer.
Pour aller se chercher, pour aller se trouver ou pour poser la bonne question, quoi, déjà. Mais je pense que aller bien, c'est ça aussi. Mm-hmm. C'est pouvoir avoir déjà dans sa besace, comme tu dis, à défaut de... On aura tous des failles, etc. Tous les parents essaient de faire le mieux, mais on n'y arrivera pas. Mais c'est d'avoir déjà, de mettre dans la patte des enfants des moyens d'exprimer ce malaise, quoi. Je trouve, c'est important.
Et puis,
c'était pas méchant hein, quand j'ai dit ça.
Non, t'inquiète.
Non,
c'était une blague. Non, alors tu sais.
Rien dit de méchant, c'est moi qui fais.
Ah d'accord,
rien dit de méchant.
Non, c'est juste que ton côté dark. Je pense qu'on a tous une faille. Il y a une très grande actrice que je côtoie qui est vraiment une meuf géniale, trop cool, trop sympa, trop stylée. Je dis mais c'est quoi ton? Il est où ton dragon? Tu vois ce que je veux dire? Quand je pose cette question, c'est mais il est où ton dragon? Où est cette T'as l'air tellement enjoué que je me dis, mais ce métier, généralement, quand tu croises quelqu'un dans ce métier, il a toujours un petit dragon. Quoi.
Mais c'est un peu ton cas, au fur et à mesure des années, c'est que c'est pas tant de t'en débarrasser que de pas le mettre dans la gueule des autres.
Ouais,
exactement.
C'est pour ça que les gens qui ont besoin de contrôle, à un moment, ils se rendent compte qu'en fait, il ferait mieux d'avoir de la maîtrise. Parce qu'en fait, tu peux pas contrôler la voix qui crée en tête. Par contre, tu peux la maîtriser. Tu peux dire, attends, je vais pas faire chier, machin. Tu vois, donc effectivement, peut-être qu'un comédien qui arrive et qui
prend
tout l'espace.
Le dragon, là, puis...
Oui, voilà.
Et puis je vais te dire, après, moi, je...
c'est une façon de canaliser,
je
de dire que
jamais
je
allé,
dans une chanson.
J'ai jamais fait le psy dont je parlais et tout. Et je me dis, un jour, j'aimerais bien. Parce que ce qu'il y a, c'est que je ne cherche pas à m'expliquer tout. Ce que je sais, c'est que, et ce qui ne se voit pas, c'est que je suis vraiment un bagarreur dans ma tête depuis toujours, quel que soit le sujet.
Donc, tu es en colère.
Il y a tout le temps un truc comme ça. Et je me suis jamais penché sur des trucs, mais évidemment que la vie elle a jamais tout le temps été comme ça. Mais heureusement en fait aujourd'hui je me dis ça. En revanche je me sens tellement heureux que j'ai pas du tout besoin d'expliquer pourquoi je suis comme ça, pourquoi et comment j'ai pu dompter le truc.
Je l'ai pas.
Bah j'ai été bagarreur physique longtemps.
Ah t'as une envie
j'ai dompté ça grave. Mais j'ai une envie permanente, quel que soit le sujet. Je peux te dire que, ouais, quel que soit le projet, c'est un sentiment bagarreur, c'est que je veux aller au bout, mais j'y mets toute la volonté du monde. Alors, c'est jamais un mauvais esprit, c'est pas une violence, mais c'est que rien ne m'arrête jamais.
Déterminé.
Tu vois, quel que soit le truc, je suis vraiment, oui, voilà, déterminé. J'y laisse ma peau, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, même pour mes amis, mes trucs, moi, je meurs pour lui. J'ai ce truc-là de jusqu'au boutiste.
L'adversité t'énergise.
Et l'adversité, elle est incroyable pour moi. Et dans
ton moteur, c'est de dire, ah ouais, je vais leur montrer. Ah ouais, on peut pas, c'est ce qu'on va voir. Genre, plus c'est dur.
Dans la musique, ça m'a beaucoup aidé.
C'est votre duo, ça, plus c'est dur, plus j'y crois.
J'y crois, oui. C'est vrai que j'ai écrit ça à un moment.
Moi, je pense qu'on a ça en commun aussi. C'est un mélange d'éducation. Sûrement. Y a aussi ça. Je pense qu'on a en commun une éducation un peu polie, comme ça. Et c'est vrai aussi, du coup, plus d'action dans la réaction. Il y a des gens, c'est génial, c'est quand ils vont bien qu'ils composent et qu'ils sont inspirés. Moi, je sais que c'est souvent quand il y a la tuile qui est sur la tronche, malheureusement. On le dit, c'est une espèce de cliché. Moi, à chaque fois que j'avais... un amour malheureux, j'avais la personne qui s'occupait de moi dans la maison de disques, qui me disait « Ah, super, avoir des bonnes chansons !» J'avais envie de la zigouiller, parce qu'en même temps, je préférais même limite arrêter de faire de la compo et pas de faire de chansons, être un peu plus heureuse dans ma vie. Mais bon, c'est pas comme ça. Donc, c'est trouver un espèce d'équilibre dans ce déséquilibre aussi, ce métier, je pense.
En fait, c'est quand tu réagis. Mais c'est vrai que nos métiers... Et les vents contraires, c'est tout le temps.
Ah
c'est
ouais,
dès le début.
Il faut être costaud quand même à ce niveau-là.
Et voilà. Moi, il y a un effet où ça me fait partir, ça me booste, ça me donne une envie incroyable, quoi. C'est
vous,
comme ça.
Vous l'exprimez de la gentillesse. Il y a des gens qui l'expriment dans la hargne et dans le rabaissement des autres.
Ouais, ouais.
Vous l'exprimez de la gentillesse.
Et puis, tu vois, Oli m'a parlé d'un... que tu connais bien, donc j'en parle. Mais c'est vrai qu'il me disait, on a tout le temps le sentiment, nous, parfois, d'être les persécutés du milieu, des machins. Mais tout le monde a ça, tu vois. Non, mais par contre, ce magazine, il parle jamais de moi, machin, il me déteste. Je sais pas, il y a toujours un truc qu'on a tous l'impression d'eux. Non, en fait, c'est le jeu. C'est qu'il y a tout le temps, à un moment donné, des gens qui vont contre notre envie, notre passion.
Le
notre
fameux
truc.
Vous comprenez pas, que tu dis à la maison de disque, que tu dis à l'impresario, que tu dis au gars de concert, au producteur. En fait, c'est normal qu'ils comprennent pas, ils sont nous.
Faut avoir faim.
Vous avez passé ce truc, parce que moi, pour avoir travaillé avec beaucoup, moi, je suis souvent le gars un peu plus posé, vu que je ne fais pas ma vie à chaque instant.
Plus, vous ne comprenez pas, tu as l'impression que les gars...
En fait, c'est qu'en face de moi, il y a parfois des gens qui croient. Ils se disent...
Zazie, elle... Ils croient connaître, ils croient savoir. Ouais.
Non, non, c'est surtout Zazie, elle, maintenant, ça doit être tranquille. Tu vois, passer 10 ans dans le métier, elle doit arriver en disant... Je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde dit oui, madame, il n'y a aucune contrainte. Et elle fait ce qu'elle veut. Et au contraire, même peut-être que le jour où ça arrive, ce n'est pas très bon signe, parce que ça veut dire que tout le monde te laisse aussi un peu.
Oui, ou ne pas te bagarrer. On te statuifie, et puis d'un coup, c'est ah oui, c'est formidable.
Moi, je pense que j'aurais un peu peur. Si on me dit oui, vas-y, banco, fais tout ce que tu veux. J'ai dit attends. Non, non, normalement, il devrait y avoir un peu une contrainte. Un gars qui dit c'est pas assez drôle. Là, il ne se passait rien.
C'est vrai qu'on a été beaucoup plus drôle en réunion. C'est vrai qu'on l'avait constaté. Vraiment des gens hilarants en réunion.
C'est génial. Si ça sort avant Noël,
c'est drôle
marrant.
Ce que tu dis. Ouais.
Si je dis que c'est marrant, ça sort avant Noël.
Ouais.
Alors c'est très marrant.
Là,
tu vois ce côté un peu.
Vrai,
tout ton album est formidable, il n'y a rien à retoucher, comme ça sort avant Noël. Non, c'est pas le bon.
Du coup,
si tu as l'esprit bagarre.
En fait, on a les mêmes soucis. Quoi, hein.
Je pense que c'est propre à plein de sujets, même en politique, je pense que c'est ça. Je pense que finalement, il n'y a que le sport où, de toute façon, tu es nul, tu te casses. Mais finalement,
il y a tous les sportifs qui ont échoué. Alors, on vous salue.
C'est nul.
Vous avez échoué. Bon, vous avez essayé.
Non, mais c'est la loi. C'est la loi du sport.
La musique, les gars.
C'est la loi du sport. Mais je pense qu'un président de la République, un vent contraire en réunion. Je sais pas si ça arrive en fait. Quelqu'un qui dit attends,
ça devrait
redescend. Redescend.
Tu vois. Je pense que c'est nos métiers. Bon voilà, t'arrives à un niveau.
Mais tous les mondes, même les gens qui, je pense que. N'importe qui entreprend de concrétiser une idée, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans une équipe de travail, des choses comme ça,
même dans tes amis, dans tout.
Il y a le vent contraire. C'est vrai, le vent contraire, j'aime beaucoup cette expression.
Si personne ne te contredit jamais, qu'il y a très peu de débats dans ta vie, c'est pas bon signe. Tu vois, même tes amis, si t'as que des amis qui te tapent dans le dos en disant « Ah, mon pauvre », mais qui te disent jamais « C'est peut-être toi qui as déconné », c'est pas bon non plus.
Ouais. Et après, ça peut être fatigant.
Donc ça va, en fait, ta faille, c'est pas du tout une faille, t'en as fait une belle qualité, un beau moteur.
Je voulais proposer un nouveau jeu.
Ah,
un nouveau jeu qu'on n'a jamais fait dans un bon moment.
Toujours les jeux.
Test tout en mangeant.
Ça s'appelle « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»
Ok.
On dirait un jeu pour enfants.
Ce sont des chansons qu'on connaît tous et toutes, mais on ne sait pas de quoi elles parlent.
Ah,
et c'est à vous, je vous donne le nom de la chanson et c'est à vous d'avoir des théories.
J'aime bien tes jeux.
Ok, on adore tes jeux.
Que veut dire la chanson Poker Face
de
Lady Gaga? Que raconte cette chanson?
Alors, je crois qu'hier, tout m'est arrivé hier, on m'a dit qu'elle disait
Lady Gaga est un prénom.
On m'a dit qu'elle disait pas pop, Poker Face, apparemment.
Ah bon, d'accord.
Elle dit autre chose. A priori, je ne suis pas sûr de moi du tout.
Alors, si, je crois, là, mon gars, par contre, le gars, il sait.
Elle dit Macarena.
9,8 millions de copies écoulées en mars 2016.
C'est ça qu'elle raconte.
24 millions d'exemplaires à travers le monde. Ouais, c'est ça, elle parle d'un succès.
Elle parle d'un succès
d'avant.
Poker Face, c'est une expression, déjà.
Poker Face, c'est une expression.
C'est genre de menteur, donc ça parle d'un menteur.
Elle dit, je pense qu'elle dit, tu ne pourras pas voir derrière ma poker face, je crois. Elle dit un truc comme ça.
C'est ça, il y a un truc.
Ah, c'est elle.
Il y a quelqu'un qui ne peut pas voir derrière cette poker face. Mais cette poker face, qu'est-ce qui se passe derrière cette poker face?
Je suis sûre, c'est parce qu'elle a un meilleur ami et qu'en fait, elle est très amoureuse de lui.
C'est pas un meilleur ami.
Qu'elle a un meilleur amant.
C'est pas un meilleur ami.
Un frère.
Elle a un chien.
Elle est amoureuse de son chien.
Elle a un chien.
Non, c'est pas un chien.
Elle parle à une amie.
Non, sa poker face, elle pense à quelqu'un d'autre.
Son père.
Non.
Mais
à un moment précis.
On a fait tout, on a fait la famille et tout.
Quand tu m'as quitté.
C'est un humain.
Un banquier.
Quand tu m'as quitté, j'ai fait genre, je m'en fous, mais en fait, j'avais ma poker face.
C'est pas ça. Elle a un poker face à un moment précis. Et en fait, elle pense à autre chose.
Ah, ok.
Ah, quand on fait l'amour, en fait, je suis en train de simuler.
Non, elle simule pas.
Non, mais par contre, c'était bien quand elle fait l'amour.
C'est
bon
ça,
coup,
ouais.
Ça.
Okay. C'est ça, quand elle fait l'amour.
Ah, c'est pas quand elle... C'est quand elle fait l'amour, quand elle fait l'amour. Au moment...
Elle a une poker face quand elle
bah,
fait l'amour.
Parce qu'elle pense à un autre gars.
Pas un autre,
non,
gars.
Un autre gars.
Elle pense à une meuf.
À une meuf. Et c'est donc une chanson qui parle de bisexualité.
Elle dit mec.
Le gars a parlé pour la première fois du vrai sens de la chanson en 2009 avec l'animateur de télévision Jonathan Ross.
C'est pas de la bisexualité. Si quand elle est avec un mec, elle pense à une meuf, c'est du lesbianisme. Du coup.
Quand je faisais l'amour avec mon ancien petit ami, je pensais parfois aux femmes.
Ah, parfois aux femmes. Ok, d'accord. Et là, j'avais
d'accord.
une poker face.
Et donc, elle ne voyait pas sa poker face, elle ne voyait pas qu'elle pensait à d'autres femmes. Quoi.
D'accord.
Maman.
Tu vois. C'est pas mal, on apprend des trucs.
De quoi parle Relax? Attention, c'est deep.
Okay.
C'est pas du tout au niveau de la mélodie de Relax. C'est plus deep.
Okay.
Take it easy. Donc, c'est-à-dire qu'il donne un conseil à quelqu'un qui vit mal quelque chose?
C'est pas à quelqu'un.
À lui-même?
À lui-même.
À lui-même.
Ah. Je dis détends-toi. Détends-toi parce que tu te fais harceler parce que t'es trop grand. Mmh. Ou tu te fais harceler parce que...
Il se fait harceler par quelque chose, mais c'est pas vraiment du harcèlement.
Okay. C'est une anxiété?
C'est de l'anxiété due à un événement.
Quand il repense à un trauma?
À un trauma.
De son enfance, de son adolescence?
Non, un trauma plus fait divers, société.
Ah.
Ah, quand tout va mal, un truc dans le monde de société?
Un truc dans le monde,
ouais. Septembre.
Toujours un attentat, exactement.
Ah, l'attentat à Londres, alors.
Ah, exactement.
Ah, yes. Ah oui, mais il y était, non?
Il était à Londres.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais, donc, il dit ça,
il dit relax,
quand il a une montée de je me rappelle de ce truc-là,
ouais,
il se dit
«
relax, take it easy ».
Comme quoi,
lors des attentats de Londres qui lui ont inspiré ce titre, s'il avait déjà le Relax Take It Easy en tête après un voyage en Chine, sans quittant le métro après avoir été évacué suite aux explosions, qu'il a écrit cette chanson, j'avoue.
Il avait besoin de légèreté.
C'est un peu de légèreté. Ouais.
Mais est-ce qu'il en parle dans la chanson? Ou c'est juste l'histoire de la chanson?
C'est l'histoire de la chanson.
Ah, voilà. Okay.
Mais dans la chanson,
là,
il ne dit pas.
De pas de texte, bah, oui, j'étais là, machin, j'ai vu ça.
Non, mais je demande, parce que c'est de quoi.
C'est vrai, en tout cas, voilà, c'est l'origine de cette chanson.
Ah, tu vois, donc là, il a encore changé de jeu en
cours
de
route. J'aime bien ça.
Là, maintenant, le jeu, c'est pourquoi il a écrit la chanson. C'est plus qu'est-ce que raconte la chanson.
Voilà.
Maintenant, on va aller sur un autre jeu.
On t'a jugé. Vas-y, moi, on t'a jugé de ouf.
Ah, mais là, c'est fou.
On a dit, ah, ok, super.
En fait, ouais, genre, en fait,
tout d'un coup, on peut prendre le ballon avec les mains.
Voilà, c'est ça. Okay. On a changé les règles, quoi. Ok. Non, non, mais c'est pas très grave.
C'est la fin de ce jeu.
Waouh. Wow. C'est dommage.
Moi, j'aime beaucoup.
Mais merci.
Mais enfin, t'as quand même
changé d'autres émissions.
Si, avec plaisir. Ah. On en garde d'autres sous le coude. Est-ce que j'ai une nouvelle question à vous poser que j'adorerais avoir votre avis. Est-ce qu'il y a on parle toujours de l'école, machin, on peut tout améliorer dans l'école et tout, mais est-ce qu'il y a un prof ou une prof qui vous a marqué et ce pourquoi? Ça peut être dans n'importe quel domaine et tout. Et en vrai, j'aimerais qu'on rende hommage.
Parce que t'as direct fait ça.
Oh bah ouais.
J'aimerais qu'on rende hommage à ces gens qui nous ont porté à un moment donné de notre vie.
De professeur de français, Madame Bonhomme.
Qui m'a...
Et puis après, madame...
qui a écrit les livres. Elle est millionnaire.
Chrysler, voilà. Elle s'appelait. À deux années consécutives. Il faut savoir que moi, j'avais 2 ans d'avance à l'école. Et donc, du coup, j'étais vraiment très immature sur plein de choses. Mais aussi, j'avais un peu d'inspiration sur d'autres choses. Et ces deux profs de français, qui, troisième et quatrième... Donc, 2 ans, ça fait beaucoup à cet âge-là. J'étais toute petite, j'étais la plus petite de la classe. Bon, je me suis vengée après, mais je comprenais rien à ce qui m'arrivait.
12, 13 ans en troisième, quoi.
C'est ça. M'ont un peu sauvé la vie en m'intéressant, en me donnant des bûches comme ça, des bouquins de Boris Vian, des choses comme ça un peu folles, en me notant pas sur ma maturité, mais sur un truc un peu farfadé, quoi. Elles m'ont juste un peu sauvé la vie de l'école.
Elles t'ont marqué. Elles t'ont vraiment marqué à vie.
Complètement, je te dis les noms. Je m'en souviens encore. Et toi, alors?
Eh ben moi, en fait, je réfléchissais. Moi, j'ai pas eu beaucoup de copains profs. Hein. Franchement, c'était
pas des copains. Hein. Je saquais, hein, mais...
Ouais, bah moi j'ai beaucoup trop saqué pour... Ouais, sérieux, j'ai pas... Non, quand même, j'ai un... Alors déjà, ma mère est prof, et voilà, on va dire que c'est mon prof le plus important.
Ouais.
Bon,
ça, c'est
belle
très
feinte.
Mignon.
Très belle feinte à la question. Retrouvez les meilleures feintes de l'année aux questions.
Non, j'avais mon prof de sport. Je l'adorais. Voilà, Bertrand.
Bertrand,
monsieur Amiens. Monsieur Amiens,
carrément,
qui est venu me voir en
prénom,
concert et tout après. Bertrand, on l'appelait Bertrand.
Bébert, carrément.
Je l'adorais, mais bon, c'est parce que vraiment au lycée, j'étais en loose, mais atomique de résultats. Et le sport, c'est le seul truc où des gens en faisaient 12 heures par semaine où j'étais, donc c'était très important. C'était un gros coef et tout dans le truc, ce qui m'a sauvé ma scolarité. Et lui, il avait capté que j'étais juste heureux à faire du sport beaucoup plus que, bah, que clairement, voilà, je reconnais en français tout ça, j'ai pas kiffé de fou. Et par contre, voilà, j'avais adoré ce mec. Donc je dirais Bertrand, c'était un binôme de gars. En fait, il y avait Luc aussi, mais j'étais moins souvent avec Luc. Et
mais il y a un événement qui t'a marqué avec lui. Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, ce moment-là, quand même, il était très sympa.
En fait, je te raconte un truc.
Vas-y, vas-y, je me raconte.
Ça paraît nul. En gros, moi, on jouait beaucoup au rugby là-bas. C'était mon prof de rugby à la base, lui. Dans ce lycée, c'était une pension. Et en fait, à un moment, il m'a dit, il faut que tu fasses, vu comme tu es un bondissant, fais du saut en longueur.
Un bondissant.
Fais du saut en longueur pour tes points au bac et tout. Donc, je dis, mais saut en longueur, c'est ridicule pour moi. Genre, moi, je veux jouer avec un ballon. Et voilà, je veux me battre, je veux plaquer des mecs et on rigole, quoi. Et il dit, non, fais du saut en longueur. Et donc, je fais un premier entraînement avec lui, tête à tête, quoi. Tu vois, le prof qui prend le temps, il y en a d'autres. Le prof de maths, il va t'expliquer un truc. Lui, c'est pareil, il me prend après et puis il me dit, vas-y. Et puis, je fais un premier saut. Et en fait, j'ai kiffé, mais finalement, j'en fais plus. Parce qu'en vrai, je kiffe pas le saut en longueur. Mais je kiffe parce que ce prof-là, d'un coup, je voyais, il était trop content de moi.
Donc,
il me regardait.
Être aimé par le prof.
Exactement.
De machin.
Et le prof, il m'a dit, bah, vas-y, on va faire les championnats de France et tout. Et au championnat de France, j'ai pris une bonne tôle, mais régional, j'étais champion des Yvelines du saut en longueur. En 6 mois, j'en avais rien à foutre, ok ? J'en avais rien à faire, mais je le voyais que lui, il était content. Et voilà, et en fait, j'ai retrouvé la photo, elle est ridicule. Et j'en parle aussi, j'ai retrouvé la photo, je suis sur le podium avec un jogging dégueulasse comme ça. Et genre, du saut en longueur, je le revendique pas, j'en ai rien à faire, je vous dis la vérité. Mais franchement, lui, bah, il a dit, vas-y, tu peux faire un truc au saut en longueur. Je ne sais pas comment il a dit ça. Et puis, il m'a emmené faire les championnats de France et on a gagné en région et tout ça. Donc, je lui ai fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Voilà, super souvenir d'avoir été pris au sérieux par un gars qui était le prof de sport.
Comme quoi, il t'a donné de l'attention.
Bon, quelque part.
Mettre ça dans ton Wikipédia. Hein, les gens, voilà. Maintenant, il y a une source, c'est cette émission. Dans le Wikipédia de Vianney, on veut champion des Yvelines.
On parle de son longueur dans ton Wikipédia, mais on ne parle pas de cette anecdote.
Non, on ne parle même pas du son longueur.
C'est vrai.
Mais bref, voilà, c'est dire en effet le prof, juste celui qui prend un peu plus de temps avec un élève, qui prend au sérieux.
Ouais.
Voilà.
Il te prend pas pour un gamin, quoi.
Voilà,
il te prend pour un être.
Il dit, bah, c'est sûr, t'es peut-être pas bon, ça, c'est sûr, t'es pas bon en français, en philo et tout.
Grâce au sport aussi. Hein.
Ah bon ? C'est vrai.
J'ai eu 20 sur 20 en sport. Mmh. Si j'avais eu 19, j'avais pas mon bac.
Ah bon ?
Je l'ai eu un point après.
Belle loose.
Wow.
Donc, comme quoi, tu vois.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné ?
Faites du sport.
C'est un bon conseil. Vous gardez une hygiène de vie avec les tournées, les concerts et tout. Vous gardez une hygiène de vie ? C'est-à-dire activation, on s'amuse, on fait du sport.
Alors, c'est quoi
une
juste
salle, on fait un
meilleur conseil ?
Vélo,
tu me parles du meilleur conseil ? Parents, ils m'ont toujours dit que je devais m'adapter. Et en fait, ça, je trouve que c'était le meilleur conseil. Parce que... j'ai tout fait pour être tout terrain, que ce soit physiquement, socialement,
musicalement. Quand même, arriver en guitare voix dans un Bercy.
Ouais, en fait, ça
m'a tout terrain à ce moment-là.
J'ai toujours pensé à ça. J'étais capable quand je partais voyager, je dormais dehors, dans la rue, n'importe où. Tu me mets n'importe où, là, je dors. Tu me mets avec n'importe qui. Franchement, je vais réussir à aimer la personne, à l'apprécier, à la comprendre à peu près. Tu vois, dans n'importe quel pays, j'ai toujours aimé ce truc-là. Et en musique, pareil, de dire bah, n'importe quel style, je vais essayer de m'adapter parce que ça va me rendre heureux. Je sais, je vais découvrir un truc sur moi et machin. Mes parents, ils m'ont bourré le crâne avec ça. Donc, s'adapter, je trouve que ça, c'est un bon
c'est
truc.
C'est marrant, moi, j'aurais dit. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'en fait, moi, c'était ça. Mais je dirais que le meilleur conseil, c'est de se dire aussi qu'on ne s'adapte pas trop. Pour pouvoir...
Non, on ne se soumet pas.
Ou pas se perdre, ce qui n'est pas du tout ton cas. Tu
vois oui, non, mais c'est l'équilibre.
Toi, c'est adapté pour dire qui tu es, c'est différent. Mmh. Mais moi, je dirais que le meilleur conseil qu'on a pu me donner, c'était d'écouter vraiment ce que dit l'autre jusqu'au bout, mais sans chercher à lui répondre, à l'écouter vraiment. Je pense qu'il y en a trop dans nos rapports humains, amoureux, professionnels, interviews. Tu vois, mais même là, moi, j'écoutais ce que tu disais en me disant « je vais rebondir sur ce qu'il dit ». En fait, si tu l'écoutes vraiment, tu n'as pas besoin. Alors là, c'est évidemment, c'est le principe d'un interview. Mais écouter vraiment la personne qui dit un truc sans penser déjà à ce qu'on va lui opposer ou,
C'est un combat, j'ai l'impression que c'est un combat interne à l'être humain qui cherche toujours une justification
de
ce que l'autre dit, non ?
De s'opposer ou de s'apposer ou de s'imposer, voilà. Je pense que c'est
en fait, c'est ramener à soi, que toujours essayer de se placer par rapport à... Bon, et vous les mecs ?
Meilleur conseil ? C'est quoi ton meilleur conseil qu'on t'a donné, Navo ?
Non, mais on l'a pas déjà fait.
Oui, mais je payais.
Ah bah, on n'était pas là.
Oui, on n'a pas vu. Pas là, alors nous, on vous dit des trucs.
Je me souviens pas trop. Attends, meilleur conseil qu'on m'ait donné. Parce qu'en fait, j'écoutais en essayant de pas interrompre Zazie quand elle parlait. C'est une conversation depuis des années où je coupe trop. Parce qu'en fait, je coupe trop la parole et en fait, Kian a l'épreuve puisque il a des émissions qu'il regarde. Et au montage, il me dit t'as encore coupé 71 fois la parole.
C'est vrai ou pas ça ?
Ouais.
Et en fait, il est pas fermé à l'évolution. Je lui dis, je pense que on va devenir des gros tontons si à un moment donné on a nos certitudes et nos réponses.
Non mais à aucun
moment. Viens, on laisse les gens nous surprendre.
À aucun moment je te dis, mais arrête de dire ça.
Exactement.
Je coupe la parole.
J'adore en fait. Ils sont bien tous les deux.
À aucun moment je te dis mais t'es con ou quoi, je coupe jamais la parole. Je dis ah bon, ah mince, je m'en rends pas compte, je te fais confiance.
Bien sûr.
Il a aucune raison de me faire croire que je coupe la parole. Et en fait c'est un vrai travail et ça m'intéressait justement ce que t'étais en train de dire, parce que je dis ah, parce qu'en fait je me disais mais non, mais ça m'intéresse ce que dit la personne parce que j'ai une écoute active, donc en fait je veux que la personne m'en dise de plus en plus. Mais en fait, effectivement, dans un monde où couper la parole, ça signifie « je ne te respecte pas », même si en vrai, je le fais... Parce que moi, ce que je ne comprenais pas, je disais « mais moi, je le fais tout le temps ». C'est-à-dire que Vianney commence à parler, je fais « ah ouais, et pourquoi, et comment, et où, et quand ?» Mais c'est lui qui m'intéresse, tu vois. Mais si je lui coupe trop la parole, l'impression que je donne à lui et au reste du monde, encore plus dans une émission, c'est « j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte, je veux juste placer ma voix ».
Tu peux aussi relancer et lancer des balles, donc c'est aussi très positif.
Donc je suis passé de savoir m'intéresser à l'autre à « mais tu coupes quand même la parole, c'est pas parce que tu t'intéresses à lui que tu lui coupes pas la parole ». Et au départ, on me l'avait dit pour les femmes, parce que justement, je pense que la réaction, c'était ça, de dire « attention, s'adapter, mais pas trop », parce que c'est un truc culturellement qu'on dit aux femmes, et moi, on m'avait expliqué ça, on m'avait dit « attention, je faisais des émissions où il y a beaucoup de femmes », et ils disaient « regarde bien, elles ne couperont jamais la parole. On leur a pas appris. Non, mais parce que j'imagine que tu as dû te dire « ok, maintenant, il ne faut pas que je me laisse faire, je vais couper la parole, je ne vais pas m'adapter ». Parce que les gars se coupent la parole tout le temps, naturellement, et les meufs culturellement, hein, bien, c'est un gros schéma. Mais on m'a dit « tu vas voir, regarde bien les émissions
c'est que marrant, tu fais, ce que tu dis.
Une meuf, quand tu lui coupes la parole, elle ne se dit même pas « il faut que je reprenne après ». Naturellement, elle va juste se dire « bon, bah, je me coupe la parole, je vais l'écouter, m'expliquer la vie maintenant ». Puis après, toi, t'expliques la vie, t'es content, tu crois que t'as eu une interaction, mais tu l'as pas eu. Donc, en gros, en ce moment, en tout cas, je bosse sur ne pas couper la parole. Et Zazie vient de me donner un très bon conseil qui est « intéresse-toi à ce que l'autre dit ». Et quand bien même, je me dis « mais ça m'intéresse », fait « ouais, mais si ça t'intéresse vraiment, ferme ta gueule alors ».
Si ça t'intéresse vraiment, ferme ta gueule, le conseil de Zazie.
Non, c'est vrai.
On en fera un t-shirt.
Vous n'avez pas donné vos conseils.
On n'ose plus parler maintenant.
Bah, non, mais c'est un conseil qu'elle lui a donné à l'instant.
Okay. Et toi, alors, ton...
En live.
C'est Isabelle Nantier et Cédric Clapiche qui ont un peu donné le même conseil, parce que je viens d'avoir un enfant. Mmh. Et dans cette émission, ils m'ont dit « l'enfant ne t'appartient pas, on ne fait qu'accompagner un enfant ». Et c'est une manière de voir les choses avec laquelle je suis complètement d'accord. Et c'est vrai de dire, se lâcher prise, de dire, l'enfant est comme il est. C'est sa personnalité. Parce qu'il disait, Cédric, il disait un truc, il disait, mais non, mais tu dois faire ça. Et l'enfant de 3 ans lui a dit, mais papa, je ne suis pas toi.
Ah oui, oui.
Donc, je ne peux pas faire comme toi. Un enfant de 3 ans, il a été choqué. 4 ans, je ne sais pas si je respecte bien l'histoire.
Sauf que c'est son enfant, c'était pas Romain Duris.
Je crois que c'est Romain Duris qui
l'a dit. Il les confond, les deux.
Je crois que c'est son grand-père. Enfin, je ne sais plus, en fait. C'est pas grave. C'est pas très grave. L'important, c'est la substance
c'est
que j'en ai compris.
Non plus, ouais.
Est-ce que vous avez une recommandation culturelle à faire auprès des gens qui nous regardent ? Quelque chose que vous avez aimé, un artiste, une artiste, un livre ? Ça peut être une rime dans une chanson, ça peut être n'importe quoi. Ça peut dire, écoutez cette chanson, parce qu'il y a cette rime à un moment donné, ça m'a rendu ouf un jour dans ma vie.
Moi, je ne sais pas, mais j'aime bien Zao de Sagazan.
Zao
de Sagazan.
Je ne sais pas.
C'est une artiste
C'est marrant que vous ne connaissiez pas encore.
Tu vois, hein,
vous qui êtes très pointu.
Comme quoi. Zao, elle ne s'appelle pas Zao.
Zao.
Non, ce n'est pas Zao.
Ah, ce n'est pas Zao.
Non,
il y a Zao et il y a Zao de Sagazan.
D'accord, c'est une jeune artiste, auteur, compositeur, interpréteuse, et avec une belle personnalité, un beau texte, un univers musical un peu défini comme ça.
Génial.
J'aime bien.
Voilà. La symphonie des éclairs.
Ouais.
Voilà. De Zao, mm-hmm. Par exemple, la tristesse.
Ça parle d'une boulangerie-pâtisserie.
Qui va la tristesse. la, vous l'avez sûrement écouté.
Tristesse, vous allez kiffer. Ok. Et moi.
Le sport
je vais...
Tu conseilles le...
Ah, okay. En sport, ouais, je vous conseille,
Bertrand,
il y a des petits jeunes
samedi
là.
Samedi matin, de 9h à 13h, il donne des cours de sport.
Saut en longueur, vous pouvez devenir très rapidement. Il a monté un stage pour devenir champion des Yvelines en 6 mois.
Avec ta photo, devenez comme Vianney, champion du monde des Yvelines.
Alors, j'ai réécouté une chanson qui n'est pas du tout connue, c'est pas du tout un jeune, c'est Gérard Lenormand. Ah. Il a écrit une chanson qui s'appelle Maman. Allez écouter ce truc. C'est pas lui, il l'a écrite avec Serge Lama. Serge Lama a écrit le texte, j'ai vu ça. Okay. Et j'ai pleuré.
Vous avez une culture musicale.
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
Ah ouais.
Ah ouais. Et franchement, ça m'arrive une fois par an, quoi. Tu vois, c'est pas. Et là, il m'a couché. C'est voilà. Donc allez écouter ça. Elle a donné une très jeune.
Non, mais... Gérard Lenormand.
Voilà.
Parfait.
Oh, Lenormand.
Lenormand. Je perds Lenormand dedans.
Voilà. Chanson sublime. Et pourquoi je dis ça aussi? Après, il y a le contexte. Chanson sur sa mère. Il a jamais réussi à l'appeler maman. Sa mère qui le battait. Et,
oui, bah
parce qu'en fait, elle l'avait eu.
Il a fait mon vieux au féminin.
Ouais, il l'appelle quand même papa à la fin dans mon vieux. Il l'a eu, sa mère l'a eu avec un nazi pendant la guerre, Gérard Lenormand. Donc il a grandi avec ce truc de sa mère qui l'a détesté pour ça. Voilà. Bref, qui a été très dur envers
lui. On est d'accord
lui.
Que c'est de la faute du gamin, clairement. C'est clairement, elle a eu raison. C'est la faute du gamin pour moi.
C'est ça, quoi. Puis on voit ce que ça donnait en plus. Hein.
Et bah, tu vois, la faille de Gérard Lenormand.
Ah, bah, elle est belle, hein, elle est incroyable.
Pas mal, hein. Bon, et ben, bah, il en okay. a fait cette chanson. On parle 60 ans plus tard, du coup, parce qu'il l'a faite sur le tard assez récemment, en fait. Et c'est la première fois où il arrive à appeler sa mère maman. C'est dans cette chanson quand il l'enregistre. Donc, et moi, je l'ai senti, je connaissais pas l'histoire, ok. J'ai écouté le truc, ça m'a couché. Voilà.
Nabo, t'as quelque chose à recommander ?
J'ai pas du tout pensé
Merci.
À recommander quoi que ce soit. Donc, je réfléchis. Je vais recommander 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai regardé hier ? Je recommande...
Les fruits de saison, je sais pas, un truc, des artichauts.
How to be your own best friend. On mettra le lien en dessous de okay. Inès. Son nom est compliqué.
Règle.
How to be your own best friend. Donc, ouais, comment être ton meilleur ami.
Comment ? How to be your own... own
your own. Ah, ton propre.
Voilà. Tu l'avais préparé ce moment
de... Elle a commencé une deuxième. Elle vient au moment où on enregistre de faire une deuxième saison. C'est super, c'est pas très connu. Je vous encourage à aller voir. Okay. C'est sur YouTube. C'est très cool. Okay. C'est la saison 1, en tout cas. C'est une meuf qui parle avec elle-même, où elle fait des chants contre chants et où elle discute de la vie. Elle est un peu en dep, etc.
D'accord.
Si okay. vous aimez bien ce qu'on fait en général, il y a moyen que vous aimez bien Inès. Et je suis okay. désolé, je veux pas gâcher son nom de famille. Benaguga, Banzai Benaguga, et pardon Inès si j'ai
okay, ça se
écorché ton nom.
Moi je voulais vous recommander un compte Instagram, il est aussi sur TikTok je crois, c'est Mitch CK officiel, Mitch CK officiel. Et il y a plein de gens qui lui envoient des vidéos de trucs inexplicables sur Internet, et en fait il les explique, il dit bah c'est con, regardez il y a une ligne de pêche là, c'est pour ça que ça bouge tout seul, il y a quelqu'un qui tire le truc machin. J'espère que ça vous aura aidé. Bisous.
Ah, il débunk
tout. Cours de physiologie.
Et
physique,
il le dit ouais, tous les matins, il fait une vidéo et je trouve ça. Mais vraiment, ça dure 30 secondes, quoi. Genre, vraiment. Tu vois, regardez, il y a un ovni dans le ciel. Non, ça, c'est un phénomène météorologique.
J'adore.
J'espère que ça vous a aidé. Bisous. Il le fait en américain et il est très, très drôle. Et, voilà,
je peux envoyer toi et dire, mais comment fait-il pour être aussi beau? Et après, il explique.
Ouais,
c'est
très
simple.
Même les trucs inexplicables, il arrive à les expliquer.
Exactement. Non, mais il débunk
tout ça, il explique.
Surtout dans une ère internet où les gens commencent à croire n'importe quoi en vidéo, c'est hyper agréable. Est-ce que vous avez passé un bon moment ?
Carrément.
Super.
Ouais, merci.
Je rappelle que Vianney, tu sors un album qui s'appelle A2 à 3.
Ouais, bravo.
Qui est sorti le 10 novembre. Alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais je vais la faire deux fois. L'album est sorti, alors Vianney, on peut se le procurer chez tous les bons disquaires. L'album va bientôt sortir, Vianney, le 10 novembre.
Bah dis donc.
Chez tous les bons pro, disquaires.
Hein. Ouais. La fin du monde est arrivée avant que l'album sorte. On peut faire ça aussi.
Vianney.
C'est possible ?
Oui, c'est possible, oui, carrément.
On fait tous les multivers ?
Alors, on a plein d'artistes. Joyeux Spack et la Jean-Louis Aubert, Soprano, MC Solar. Il y a le duo avec Zazie qui s'appelle Comment on fait ? Qui parle justement de comment on fait pour aller bien, comment on fait pour aller, déjà. Zazie, toi, tu es en tournée. Là, alors là, au moment d'enregistre, tu repars dans les Zéniths et tu repars aussi sur une autre tournée en 2024, je crois.
Oui.
Produit par Thierry Suc, qu'on salue, qui est mon producteur aussi.
Ben oui.
Qui est notre producteur.
Ah ouais. Ouais. Un bisou.
Tu connais, t'as entendu parler de Thierry Suc ?
Bien sûr. Bah, il est très aimable.
Est-ce que vous avez passé un bon moment ?
Enfin, c'est un très bon
un
moment.
Super
vous revenez
moment.
Quand vous voulez, même
c'est gentil.
Avec ou sans promo, c'est vraiment l'émission qui
est ouverte. Merci.
Et vraiment, j'espère que ça vous a plu. Merci Navo d'avoir
merci
été là. Merci à vous.
J'ai une petite question pour les fans de Zazie, parce qu'on est d'accord que officiellement, le dernier album était présenté comme une espèce de conclusion. C'est un peu le mot qui avait été dit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va rien refaire ou maintenant ça redémange?
Alors, j'ai passé un bon moment. Je vais rester là-dessus.
Ok. Restons-le. On ne sait pas. On ne sait pas.
Non, non, non. C'est,
Tout le monde veut savoir.
Elle travaille sur sa légende.
Okay. Non, c'est, je travaille tout court. Mais là, pour le moment, c'est, je me concentre sur la scène.
Ok. Ça n'a pas voilà. répondu.
Allez,
j'espérais
allez.
Avoir mon exclu. Mais vas-y, je ne l'ai pas.
Tu sais quoi?
Nous, on se refait une petite 20 minutes, un petit 20 minutes.
Meilleur commentaire de cette vidéo-là. Sous YouTube, le truc le plus gaulerie qu'on puisse voir, mais gaulerie sympa. Pas gaulerie genre moqueur, ça sert à rien. Gaulerie sympa. On offre 2 places pour aller voir Zazie et l'album de Vianney.
Waouh.
Bah, dis donc.
C'est fou.
Et ce verre d'eau à moitié vide. On veut dire que la vie, des fois, bah, c'est pas comme on veut.
Mais dans lequel, mais
oui. Il faut s'adapter.
Ne coule pas.
Mais
comme
pas se soumettre.
Il y a l'ADN de Kian Kojandi dedans. Donc après, si vous êtes un peu bon en chimie, tout ça, peut-être qu'il y a moyen
chauffe
de
park.
Reproduire.
Ils vont faire un chauffe-park derrière. Pas un Jurassic Park, mais un chauffe-park.
Bienvenue au Kian
Kojandi.
On vous embrasse très très fort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur la chaîne YouTube. Bon, si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. On embrasse Canal Plus qui nous permet de faire cette émission. Et on embrasse tous les gens qui la technique qui
c'est
sont
pas
là,
ça embrasser
nous...
merci les équipes
on embrasse
comme ça toi.
On embrasse Michel Drucker aussi
c'est ouais. pas comme ça embrasser
oui on embrasse tout le monde on les salue et merci encore d'être venu vraiment c'est trop
merci
cool de vous avoir reçu
merci à vous les gars c'était
bisous.
Trop bien
attends Kian je me rends compte d'un truc depuis le début t'as jamais fait le lancement en fait
oh merde on c'est vrai bonjour à tous bienvenue dans un bon moment je suis avec Vianney et Zazie comment ça va les amis
c'est bien donc le lancement à la fin
voilà exactement
allez on va
ah non on refait toute l'émission maintenant
c'était juste le
C'est pour faire dérégler des gens.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.